sommes donc Valérie et Alice. Et tu veux dire deux mots juste avant que je présente
Non, 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 vas-y.
Donc, nous sommes cofondatrices du collectif Ding Ding Dong. Et c'est à ce titre que nous sommes là aujourd'hui, même si on a un passé équipé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et sur l'invitation d'Alexandra et de Mathilde, donc, on voulait vous présenter un petit peu le collectif pour pouvoir introduire en fait, un petit peu ce texte qui est à l'origine, enfin, qui fait partie intégrante de la fabulation de Ding Ding Dong. Et donc je vais essayer d'être courte parce que c'est pas évident, parce qu'on fait beaucoup de choses et que c'est compliqué à expliquer, mais on a créé ce collectif à partir de l'expérience d'Alice, mais de manière aussi plus large, parce qu'on était de plus en plus perplexes face à la manière dont la maladie de Huntington était perçue, traitée par l'ensemble des personnes en contact avec cette maladie, notamment la médecine, mais pas que. Et donc il faut peut-être que je dise deux mots de la maladie de Huntington. Donc, c'est une maladie rare, héréditaire, génétique, dont les principaux troubles sont moteurs, psychiatriques et... j'en oublie toujours un.
Et cognitif.
Cognitif, pardon. Voilà.
Comme on pense.
Donc, elle est considérée comme faisant partie de ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives, mais on n'aime pas trop ce mot-là. On préfère neurozigzagant ou neuroévolutif parce que la vie est neurodégénérative. Et qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, et surtout, ça ne nous aide pas forcément à vivre, de savoir qu'on va mourir, comme tout le monde. Donc voilà, donc il y a une définition médicale qui est assez lourde. C'est une maladie qui est quand même pour réputation d'être une maladie vraiment terrible, dont on donne une image vraiment horrible, qui a un passé en termes d'imaginaire assez lourd, qu'on a beaucoup parlé d'Huntington avant que M. Huntington donne son nom à la maladie. On parlait de la Corée d'Huntington qui était assimilée à l'époque à des formes de possession, à la danse de Saint-Guy par exemple, ou des choses comme ça. Donc il y a quand même un passif assez, en termes d'imaginaire, assez dur. Et par ailleurs, c'est effectivement une maladie difficile, c'est une maladie profondément familiale puisqu'elle est héréditaire et qu'une personne qui est à risque, donc qui a un des deux parents qui est touché par la maladie, a une chance sur deux d'être porteur de cette maladie. Une autre spécificité à dire est qu'il existe un test, parce que le gène a été reconnu dans les années 90. Donc il y a un test qui permet de savoir si on est porteur ou pas. Ce test en soi est déjà une espèce de créature un peu étrange et qui donc permet à partir de la majorité de 18 ans de pouvoir connaître son statut. Et il faut savoir qu'il y a finalement assez peu de gens qui passent ce test, parce que qu'est-ce qu'on fait avec un tel savoir? C'est aussi une question qui nous intéresse dans le collectif. Et finalement, on est parti de l'expérience d'Alice qui a traversé ce test et qui a écrit le texte qu'on nous a envoyé, qui est devenu le manifeste en fait. Et en fait, il s'est passé qu'on se connaissait déjà depuis un petit moment, toutes les deux. Et en discutant, en me racontant un peu toute cette expérience-là, on s'est dit, tiens, faudrait... Enfin, t'avais déjà eu l'idée d'un collectif, mais tu savais pas bien comment faire. Puis tu t'es dit, finalement, peut-être ça intéresse que moi, c'est peut-être que moi que ça gêne, cette façon de... Il n'y a que moi qui traverse cette expérience de cette manière-là. Et je lui ai dit, ben, faut bien le faire pour savoir. Il va falloir le tester, donc le fabuler. Donc on a fait exister le collectif avant même, finalement, qu'il existe. Et on a d'emblée décidé de l'instituer, en le nommant Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. Et on a fait exister cet institut de recherche avec ses départements avant même qu'il existe. Enfin, voilà, pour le faire exister, justement, et pour bouleverser le réel, et pour tester, savoir si, en fait, les questions qui commençaient à se construire dans nos petites têtes étaient des questions qui allaient effectivement être pertinentes et qui allaient effectivement à un moment donné faire émerger un collectif et un public autour de lui ou pas. Alors on a fait le premier pari, c'était d'aller nous chercher des gens avec qui il nous semblait important et intéressant de travailler pour tenter faire le pari de faire pousser de la pensée à partir de la maladie de Huntington. Et petit à petit, maintenant, on se rend compte qu'à partir de ce collectif, maintenant, il y a quand même une petite communauté là, qui est en train de se créer. Hein, et de plus en plus, on le voit, surtout ces derniers temps.
La communauté, c'est des gens aussi qui sont atteints de la maladie ou
des personnes atteintes de la maladie, des soignants, des personnes proches, de la famille, des amis, mais aussi des gens qui, maintenant... sont engagés dans d'autres pathologies comme Alzheimer, Parkinson, et puis aussi des chercheurs, des artistes. Finalement, il y a une communauté. Nous, on aime bien dire qu'on n'est pas concerné que quand on est affecté directement par la maladie, mais on est concerné quand finalement les questions que soulève la situation et la maladie de Huntington finalement nous poussent à penser et nous font fabriquer nous font faire des choses. En termes de pensée, de création. Et à partir de ce moment-là, on est concerné parce que notre monde n'est plus tout à fait le même. Depuis que moi j'ai fait. Qu'on a créé l'Inagdang, mon monde n'est plus tout à fait le même. Alors, donc il y a mille façons d'être concerné, en fait. Mais c'est vrai qu'au départ, on s'était dit qu'il fallait qu'on soit équipé et qu'on aille chercher des gens qu'on voulait intéresser à la question. Alors effectivement, ils font partie du collectif. Plein de raisons, y compris d'amitié, mais surtout aussi parce que ça les intéresse dans leur propre pratique de philosophe, d'historien des sciences, de vidéaste, de chorégraphe. Donc il y a 17 personnes qui sont membres fondatrices du collectif. Et maintenant, je dirais que ce collectif est beaucoup plus large encore. Mais en même temps, ce noyau est important parce que c'est avec ce noyau-là qu'on travaille de manière très intensive et à géométrie variable, mais de manière. C'est vraiment très important pour nous à chaque fois être relancé par cette équipe qu'on a vraiment en fait constituée comme une équipe d'empêcheurs de penser en rond, de nous empêcher de. Nous, on prend parfois un peu des dérives avec Alice, et puis en général, après les résidences de travail, on doit tout refaire parce que tout a été bouleversé. Je dirais qu'il y a deux règles dans ce collectif, c'est d'abord mettre son ego, je parle pas forcément de l'ego en tant que sujet, mais l'ego en tant que praticien. De côté, c'est-à-dire qu'il faut accepter en tant qu'artiste, qu'un chercheur puisse dire ben là, ça va pas, ton travail, ça va pas.
Parce que et vice-versa.
Et vice-versa, voilà, exactement. Et vice-versa. Parce qu'on cherche pas ni la vérité, ni forcément la justesse, mais la pertinence. Donc on cherche à produire, que ce soit sous des formats, on va dire, davantage scientifiques ou artistiques, même si ces distinctions, on peut la discuter. On cherche à chaque fois à faire en sorte que ce qu'on va produire va avoir un effet. Qu'il soit adressé et qui va avoir un effet dans la réalité qui nous concerne là, spécifiquement Huntington, mais en ce moment c'est en train de déborder Huntington, le cadre uniquement de Huntington. Mais... Donc ce qui nous intéresse, c'est la pertinence. Et c'est ça, on s'inspire énormément de la philosophie pragmatiste, et on a quand même pas mal de gens dans notre collectif qui relèvent de ces courants-là, du pragmatisme, donc d'auteurs comme William James, qui nous aident beaucoup, John Dewey ou d'autres. Et je dirais que c'est un petit peu ça l'essence du pragmatisme, c'est de penser par les effets avant de donc c'est comment les pratiques sont bouleversées par la situation. On peut aussi parler de savoir situer, c'est aussi quelque chose que j'aime bien qui vient plutôt de Donna Haraway, une penseuse américaine, mais qui est que on produit à partir de ce que la situation exige de nous et exige de nos pratiques, et c'est ça qui fait finalement bouger nos pratiques. C'est pas forcément le fait que les pratiques soient entre elles. Oui, elles se confrontent, elles peuvent évidemment se questionner l'une l'autre, mais c'est surtout, elles sont davantage en fait fondamentalement bouleversées par la situation. Et c'est ça qui met au travail tous les gens qu'il y a dans ce collectif de manière, je trouve, stimulante et intéressante. Donc voilà, je pense que ça, c'est bien.
Oui, et justement, sur les méthodologies entre guillemets de mise au travail, concrètement, comment vous mettez au travail ensemble, si vous pouvez citer quelques exemples, même si le champ est très large, mais.
Donc on se réunit deux fois par an, à minimum, tout le groupe, donc sous forme de résidence. On passe trois jours ensemble dans des lieux, enfin on va souvent, je pense que vous connaissez bien ce lieu peut-être ici, au PAF, le Performing Arts Forum, qui est un endroit assez idéal pour travailler en groupe, et c'est important qu'on soit tous là, qu'on fasse à manger ensemble, qu'on passe trois jours ensemble, et on organise en fait le programme en fonction des projets qui sont en cours. Et après il y a des projets qui fonctionnent à géométrie variable avec certains membres du groupe, plus que d'autres, ce qui ne veut pas dire qu'on ne relance pas à chaque fois au moment des résidences collectives, mais voilà, il y a différents projets en cours. Et on a commencé quand même, en tout premier lieu, par nous atteler à la découverte de ce qu'on a appelé les savoirs invisibles des personnes, pour le coup, touchées par la maladie, donc porteurs, à risque, porteurs, malades et soignants et proches, parce qu'en fait, il n'y avait rien eu jusqu'à présent d'écrit sur l'expérience traversée par les personnes touchées de la maladie. Il n'y avait que le savoir médical, en gros, qui était disponible, et pas du tout un savoir qu'on a appelé plutôt expérientiel. Et donc on a commencé à aller par là, et on a commencé à travailler sur ça veut dire quoi, de découvrir ces savoirs invisibles, comment on s'adresse aux personnes, comment on travaille, et puis petit à petit, on a mis en place notre méthodologie qui révisait d'ailleurs à chaque fois. On l'a fait au fur et à mesure de ce que nous renseigne, de ce que le terrain nous enseigne. Et en tout cas,
on est organisé en département, donc oui. Une espèce de grand champ, enfin d'axe, et certains sont responsables de ces départements, donc du coup aussi il y a une autonomie du travail. Et puis quand on se retrouve dans les résidences, on fait le point où on en est. Et c'est comme ça que, par exemple, pour citer un exemple, le département Histoire du test, qui est animé par une historienne et philosophe des sciences qui s'appelle Catherine Soljou, elle a travaillé pendant 3 ans un peu dans son coin. En même temps, de temps en temps, elle venait avec nous dans les terrains quand ça l'intéressait par rapport à son sujet. Puis au bout de 3 ans, on a eu un merveilleux livre qu'on a édité cette année qui s'appelle L'épreuve du savoir, sur le test d'ailleurs. Et voilà, donc c'est ça. Et là-dedans, le département
danse. Il y a le département danse, il y a le département narration spéculative. Donc c'est vrai qu'on a fait par exemple une série de capsules vidéo qui met en scène un docteur, le docteur Marbeuf, qui joue un médecin, pour ceux qui connaissent dans le milieu, docteur Monsieur Marbeuf,
qui est notre neurologue,
et qui se prête très volontiers à ce jeu-là de jouer un faux docteur en fait, et qui
beaucoup de talent.
Avec beaucoup de talent exactement. Mais c'est ça, on l'a pris pour son pas sur son talent de directeur de Casma, mais pour son talent de conteur.
Mais qui est très corrigé par nous, parce qu'on a un docteur dans notre collectif, une vraie, qui le corrige justement.
Marleau dit, mais c'est bien la première fois qu'on me demande de revoir ma copie, parce que la première vidéo, il s'avère qu'il c'était parfait la première.
Non, il avait refait quand même, rappelle-toi.
Ah, la deuxième était plus compliquée en tout cas.
La deuxième, on l'a refait plusieurs fois.
mais c'était pas lui nécessairement qui était en question, c'était l'ensemble du dispositif. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas non plus donné forcément la bonne matière ou suffisamment de matière, parce que du coup, on le nourrit et après il improvise. Enfin, c'est-à-dire qu'il se fait une espèce de trame et on l'aide à faire cette trame et on lui donne de la matière à partir de nos entretiens et de la mission terrain qu'on fait auprès des usagers. Et on essaye de voir ce qu'on veut faire dire à cette vidéo, et après, lui, il suit une trame, et puis il improvise, c'est là qu'il est très fort, c'est-à-dire qu'il arrive à sans écrire, ce qui donne quand même une spontanéité à son intervention, et du coup, un aspect un peu troublant, et donc il joue un médecin qui fabule un institut expérimental de recherche qui n'existe pas, mais qui le fait exister à travers son discours. Donc ça, c'est une autre manière de travailler. Et puis enfin, effectivement, on travaille avec Anne Collot, qui est chorégraphe et qui donc est à la tête du département danse, parce qu'une des manifestations les plus spectaculaires de la maladie, c'est ce qu'on appelle la chorée de Huntington. Alors, toutes les personnes touchées n'ont pas forcément la chorée. C'est pour ça qu'on l'appelle plus chorée de Huntington, mais reste que c'est un des symptômes les plus connus et les plus spectaculaires. Et Anne, en tant que chorégraphe, c'est intéressée.
Ce sont des gestes impulsifs,
involontaires. La médecine définit ça comme des gestes impulsifs, involontaires, incontrôlables, incontrôlés. Nous, on s'est dit que c'est peut-être un peu court comme façon d'envisager cette danse. Et Anne l'a pris très au sérieux comme danse, et donc elle a décidé de se mettre à apprendre à danser notamment notre premier initiateur, Monsieur D, avec qui elle a initié son premier portrait chorégraphique, parce que du coup, le pari qu'elle a fait au départ, c'est de dire qu'il y a un pas de danse pour chaque personne, c'est pas non plus la choré, la même choré chez tout le monde. Donc elle a commencé à faire une série de portraits chorégraphiques. Voilà, mais on y reviendra, parce que ça, pour moi, c'est un rapport avec le chapitre.
Tu peux avoir accès à ces films, enfin, je sais qu'Olivier Marbeuf.
Sur notre site.
Tout est sur le site.
Ouais, c'est juste pas la danse directement. Ah non, parce que ça fait partie d'un spectacle qu'il faut voir, mais qu'on n'a pas filmé.
Mais en tout cas, les films qui ont été réalisés.
Les deux capsules du docteur Marbeuf sont sur notre site.
Je sais, j'ai pas entendu, mais vos pratiques respectives.
Alors moi, avant Ding Ding Dong, j'ai travaillé 15 ans avec Bruno Latour et j'ai cofondé avec lui le programme L'expérimentation en art et politique à Sciences Po, que j'ai quitté il y a un an et demi. Et on va dire que j'ai monté pas mal de projets, mais j'ai toujours travaillé au croisement des sciences sociales et des arts.
D'accord.
Et des nouvelles technologies. Et puis maintenant, je travaille pour Ding Ding Dong et en tant que freelance, je fais des missions.
Pas rentrer dans le détail. Inavouable.
D'après Joseph.
J'aurais une question, mais est-ce que toi tu voulais continuer?
Moi, c'est plutôt.
C'était pour parler du manifeste.
C'était plutôt l'écriture, mon médium, mais j'étais avant, dans ma vie d'avant, j'étais psy. D'accord. Je ne suis plus du tout. Voilà. Ça a toujours été mon médium à moi, ma pratique, c'est plutôt d'écrire.
Ouais, non, parce que j'aurais une question, mais en même temps, c'est rentré vraiment dans...
Voilà. Ben moi, je voulais donc introduire Ding Dong Dong et puis laisser...
Ouais, je vais... Mais ça dépend, m'a dit moi, sauf si...
C'était sur les... Quand tu prennes on pense par effet. Et du coup, je me demandais, est-ce que collectivement, vous travaillez à définir ces effets ? Est-ce que c'est des effets que chacun cherche en fonction de d'où il est ? C'est-à-dire la chorégraphe, l'artiste, etc. Quels sont ces effets ?
Non, on cherche un effet collectif qui est, enfin, il me semble, hein, qui était, qu'on disait déjà, de produire de la pensée, là où on avait le sentiment qu'autour d'Huntington, il n'y avait rien, à part des symptômes décrits par la médecine. Donc, déjà fabriquer de la matière, de la consistance, ça c'est un effet qu'on cherche collectivement, puis évidemment d'améliorer la condition de vie des personnes concernées, c'est un autre effet qu'on cherche, et ça passe, c'est pas qu'on cherche précisément à faire tel ou tel effet, mais juste si on constate que les gens regagnent en vitalité au contact de ce qu'on fait, on considère que c'est un bon effet, et par exemple.
Oui, puis des effets, ils peuvent aussi. Enfin, on a quand même. Oui, on a des envies, c'est-à-dire de quand même bouger aussi un petit peu la médecine. Pas bouger la médecine pour la bouger en tant que telle, mais pour qu'au moins elle se mette dans une disposition de coproduction, de savoir justement. Donc, nous, c'est l'approche principale, c'est quand même la coproduction de savoir. Donc, c'est à la fois entre toutes nos pratiques, mais aussi avec les usagers, et considérer les usagers comme étant des coproducteurs au même titre que nous du savoir qui les concerne en premier lieu. Ça, c'est quand même... on a envie que cette sauce-là prenne pour faire bouger aussi un petit peu le pouvoir médical. C'est pas qu'on est contre le pouvoir médical, on veut s'allier avec lui, mais pour pouvoir s'allier, il faut un peu le provoquer.
je dirais pas le pouvoir médical, du coup c'est pas, on a besoin de faire des alliances avec la médecine, mais pour cela elle est, il faut qu'elle puisse accepter,
voilà. Nous entendre,
c'est ça, entendre. Exactement, et ça c'est vraiment, ça va pas de soi, et ça on y travaille en effet collectivement ou en petits groupes par mille et une manières, dont les vidéos, dont le rapport, dont les machins, plein de... On va dans les congrès avec nos posters, on ne peut pas le prendre d'une manière, ce chanter-là. Et puis mais on a avancé là, cette année.
Mais c'est vrai que ça aussi, on fait très attention à trouver les moyens d'adresse. On n'utilise pas qu'une forme d'expression. Les formes d'expression, c'est aussi pour pouvoir s'adresser à des champs différents et qu'ils puissent nous entendre, parce que sinon on n'est pas entendable. Donc ça ne veut pas dire qu'on va être complètement obéissant et faire exactement répondre à des protocoles tels qu'ils sont définis dans chaque pratique ou dans chaque discipline, mais on va à chaque fois les décaler un peu, mais quand même essayer de jouer le jeu. Ouais, par exemple, voilà, de faire des posters, comme les scientifiques aiment beaucoup les posters dans les grands congrès internationaux, j'ai dit peut-être qu'une manière de faire, c'est de faire des posters aussi, parce que voilà, donc là c'est un exemple un peu...
là tu récupères des codes.
Mais on les décale aussi un petit peu. Là, on a fait un premier rapport de recherche qui ne correspond pas vraiment à l'écriture d'un rapport de recherche habituel. Donc ça déplace un peu. Mais on a quand même produit un rapport. Donc voilà, c'est à chaque fois de jouer avec les codes et d'essayer de...
Donc moi, je vais partir de ma... Enfin, du texte, de manifeste. Donc si vous l'avez lu, il n'y a rien à vanter, hein, par mon nom, parce qu'il y a un problème avec Huntington, c'est comme c'est une maladie très familiale, quand on parle en son nom civil, on engage toute sa famille derrière, en fait. Et donc il faut faire très attention, parce que comme c'est une maladie qu'on peut détecter à l'avance, mais qu'on ne peut pas soigner, et qui engage vraiment dans une dépendance progressive, et puis la mort à la fin, il y a une forme de ségrégation sociale, il y a un risque à s'avancer non masqué en tant qu'Huntingtonien encore aujourd'hui, parce que du coup vous avez vos assurances qui sautent, vos machins, enfin des choses très désagréables, et puis sans passer par là, tout simplement que les gens dans la famille n'ont pas envie que ça se sache, parce que c'est pas forcément qu'ils ont honte, mais qu'ils ont envie vivre sans avoir ce truc-là, voilà, cette étiquette-là, parce que c'est très déterminant. Bref, donc moi, et puis comme j'étais, j'écrivais, que j'ai commencé à... Enfin, je suis devenue romancière aussi à partir de cette expérience d'Huntington dans ma famille et de tests et tout ça. J'ai inventé au moment où je passais le test ce personnage, qui est Alice Rivière, qui est un personnage qui n'est pas un pseudonyme, qui est vraiment un personnage. Et ça me permet aussi de faire des incursions dans l'imaginaire grâce à ce personnage. Puis en même temps de raconter des choses totalement, en toute liberté, chose que je ne peux pas faire ce moment aussi. Qui est Émilie, c'est pour ça qu'on enfin, on dit Émilie, Alice, mais peu importe. Ici, on est entre gens de bien, j'espère. Je ne me sens pas du tout en risque. Et donc, j'ai écrit ce texte juste après, vraiment quelques mois après avoir passé le test de Huntington. Je ne vais pas re-raconter ce que c'est que test, parce que du coup, vous l'avez lu normalement à peu près.
Oui.
D'accord. C'est un texte très très en colère au début. Je l'ai écrit une première version de ce texte. Et c'était un texte qui était tellement en colère. Ça s'arrêtait après. Disons qu'au moment où le texte commence dans cette version-ci à faire des propositions, là à l'époque c'était vraiment il y a 7-8 ans, j'en faisais pas moi du tout. Parce que j'étais freinée, comme l'a très bien raconté Valérie. À ce moment-là, moi, j'avais ma colère avec moi. Et il a fallu qu'on invente toute cette histoire de Dindanong pour que je puisse terminer ce qui allait devenir le manifeste. Donc c'est un texte qui a été écrit en 8 ans, une première partie très vite, quasiment pas touchée. Puis après, il a fallu tout ce travail et l'invention du collectif pour que je puisse formuler des propositions et les placer à la fin. Mais là où je trouve que ça serait intéressant qu'on vienne, et c'est pour accorder avec ce texte de Vinciane, c'est qu'au fond, une chose sur laquelle on continue, enfin, qui nous a complètement motivés à créer ce collectif, c'est en effet quoi faire de ce fameux test, qui est donc un geste assez simple, d'une prise de sang, qui certes est assujetti à un protocole, on devait en passer par tout un cheminement, etc. Mais n'empêche que nous on fait ça en France, mais il faut savoir qu'aux États-Unis on peut passer par internet, ça coûte $50.
Oui.
Mais oui, bien sûr. Donc je veux dire, il y a aussi des formes sauvages de ce truc-là, et qui sont possibles en tout cas techniquement. Donc quand c'est possible techniquement, c'est possible. Ça, c'est avec ça, dans ce monde, ça, c'est comme ça que ça marche. Et donc, comment accueillir le savoir quoi faire du savoir qui découle de ce test, et particulièrement du savoir quand c'est un avenir, enfin une annonce défavorable. Il y a vraiment une question qui nous a mise au travail très en amont du collectif, et qui continue de nous mettre au travail. On n'a pas du tout terminé de réfléchir, c'est pour ça que c'est chouette d'avoir aujourd'hui l'occasion de continuer à le faire. Dans la mesure où une des colères, moi, que j'ai eue au moment du protocole, ça a été justement la façon dont la psychologie travaille cette histoire. Et c'était la façon dont la médecine travaille cette histoire, mais particulièrement dans le manifeste, d'ailleurs, je le dis, moi j'étais très très en colère vis-à-vis de la psychologie. Je dis la psychologie, alors je fais un peu exprès, parce qu'évidemment, c'est pas parce que j'ai vu deux psychologues différents dans le contexte de mon test. Une personne très très. Qui travaille depuis fort longtemps sur la question d'Huntington et de son test pré-symptomatique, il y a beaucoup plus d'expérience, et une personne un peu plus jeune, donc c'est pas un problème de compétences, des personnes très compétentes. Est-ce que c'est bien de dire la psychologie alors que je parle de Pratt, finalement, d'une expérience qui est la mienne et qui était avec seulement deux professionnels? Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, je suis bien obligée de faire comme ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que je parle depuis mon histoire, et que d'autres psychologues feraient peut-être autrement. Mais il n'empêche que depuis le temps qu'on a créé le collectif, on a discuté pas mal avec pas mal d'usagers qui sont passés par ce test, et beaucoup nous ont fait part d'expériences similaires. Donc c'est quand même pas... là, on ne parle pas depuis un épisode isolé.
Mais ce n'est pas forcément des personnes, c'est justement parce que le problème du test est un problème en soi qui doit être pensé peut-être un peu différemment.
Et donc ça reste une question, c'est-à-dire très compliqué. D'ailleurs, on peut comprendre que les professionnels, les soignants qui sont confrontés à faire passer ce test aient beaucoup de mal à faire avec cette histoire, parce qu'au fond, c'est un geste complètement qui déborde les savoirs qu'on connaît, savoir à l'avance que vous allez être entraîné dans une transformation
soin,
comme ça.
Oui,
c'est incurable. Les soins qu'il peut y avoir, c'est
ça, oui, j'ai oublié de le dire.
Moi, je l'ai dit au début, c'est incurable. Il y a des soins, mais ils sont symptomatiques. C'est-à-dire, on peut donner au bout d'un moment des neuroleptiques pour calmer un peu la chorée, mais bon, en fait, ça apporte d'autres problèmes. Les neuroleptiques, ça endort les gens. Après, on dit, mais ils sont endormis à cause de la maladie, mais c'est déjà beaucoup par les neuroleptiques. Mais comme il y a des troubles de l'humeur qui sont importants avec Huntington, on leur donne beaucoup de neuroleptiques aussi pour calmer les bouffées, les éclats, quoi. Donc c'est des traitements symptomatiques qui ne marchent pas non plus extraordinairement, mais il y a sinon plein de choses. C'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais disons qu'on ne peut pas retirer la maladie, elle est incurable, ça c'est sûr. Mais après, il y a un accompagnement intéressant à créer.
La question que je me posais, c'est ce test, savoir autre que ta maladie, que cette maladie, quel outil t'amène.
Oui, mais justement.
Est-ce que ça change quelque chose à part que tu sais que tu es malade?
C'est-à-dire que si tu veux de savoir, c'est pas que tu sais que tu es malade, tu sais que tu vas développer la maladie un jour. C'est très important.
C'est très important.
Un diagnostic sur ce qui.
Tu sais que tu as un gène porteur.
Le fait de porter le gène, c'est sûr que tu vas développer parce que tu fais des caractéristiques.
Le développement est symptomatique. Ça se déclenche toujours à un moment.
Tu vas le développer, mais on ne sait pas quand ni comment.
Surprise, quoi.
Comment exactement? Parce qu'en effet, le problème, c'est que la médecine te dit, il va se passer ça, ça va être horrible. Enfin, moi, je l'ai raconté, on était trois, hein, j'étais pas la seule à écouter ce qu'on me disait, donc j'ai pas fabulé. On te dit que ça va être horrible, etc. Donc, le comment, c'est nous qui mettons en avant que, justement, on sait pas vraiment comment. C'est pour ça qu'on a créé le docteur Marbeuf, etc.
Quand la médecine développe ce test.
Mais c'est ça tout l'enjeu, et c'est ça qu'elle raconte dans son texte.
Oui. Ouais. Mais juste pour être bien sûr, j'imagine qu'il y a quand même quelques médecins qui ont essayé d'expliquer en quoi ça aide thérapeutiquement
de faire le test.
Non, ça n'aide pas du tout. Au contraire,
c'est ce que tu dis, c'est la technologie, si c'est possible.
C'est assez intéressant, toute l'histoire du test est racontée d'ailleurs dans le livre de Catherine Sojou, que je vous invite à vous procurer, aux éditions Ding Ding Dong, qui s'appelle L'épreuve du savoir. Non, parce que les familles au départ étaient pour l'invention de ce test, et puis au moment où il a surgi, finalement, on compris parce qu'il avait surgi, à quel point c'était un truc complètement, complètement bizarre, et 80% des gens à risque ne le passent pas. Et la médecine est aussi très précautionneuse. Le protocole existe justement pour dire attends, avant de le faire, réfléchis, parce que c'est irrémédiable et ça apporte rien, à part que pour les gens qui ont un projet de faire des enfants, parce qu'il y a des techniques pour éviter, ça c'est compliqué avec des FIV et tout. Donc au fond, ceux qui passent le test en grande partie ont un projet parental. Donc là, ça sert.
Ouais.
Mais sinon, ça sert des gens comme moi, parce qu'on est aussi un petit nombre on ne pouvait pas vivre avec le doute. Suis-je porteur ou pas, ça dépend des gens. Moi, je sais que je pouvais difficilement. Voilà, ça me regarde. Mais, et donc ça a apporté quelque chose, sauf que tel que les choses, c'est pas dans la. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, c'est notre hypothèse, que c'est pas dans l'absolu que c'est comme ça. C'est qu'on peut en faire quelque chose de différent que juste pouf, et ça veut dire que c'est une sentence de mort, parce que c'est ça qu'on vous dit. Mais non, c'est pas forcément une sentence de mort. Et c'est pour ça qu'on sait, nous, on se déploie et on va mettre du temps, parce que pour pouvoir faire une chose pareille, c'est énormément de temps et de pratique, de projet, de chantier, de même, j'ai envie de dire, de comment on appelle ça, de trucs comme dans la guerre, là,
de tranchées.
Absolument, une après une. Non, mais c'est vrai, tant que t'as pas franchi l'une, tu peux pas aller à l'autre. Pour repeupler différemment, et grâce à des auteurs comme ça qui justement font par exemple la révolution qu'elle fait autour du deuil, où les choses doivent aller, on ne re-questionne plus, que la psychologie a dit, et donc on est tous tellement prospectifs qu'on se dit qu'on perd quelqu'un, il faut que ce soit ces 5 stades et puis c'est tout. Ben non, on peut en passer complètement, on peut enchanter complètement différemment le trajet. Bah pareil pour l'annonce d'une maladie, machin, truc. Parce que si on se met à s'intéresser à la maladie en question déjà, en trouvant que la façon dont elle est décrite en termes de symptômes, déjà ces symptômes-là, on les re-questionne complètement. Valérie parlait de la chorée. Certes, ça engage quelque chose avec le corps, mais c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait être, qu'est-ce que ça fait faire, qu'est-ce que ça produit.
Ça a été dépeuplé, en fait, par exemple, pour moi, la Corée de Tinton. Déjà, on l'appelle plus Corée. Alors, c'est vrai qu'au début, je me disais, c'est normal, parce que, comme tout le monde n'a pas la Corée, qu'elle ne se développe pas forcément de la même manière chez tout le monde, c'est un peu étrange de parler de Corée de Tinton.
Tout le monde n'a pas déjà ces mêmes symptômes. Donc, non. Quand tu disais que déjà, ça, à un moment, ça se développe, il y a des cas plus
durs.
Il y a des nuances.
Il y a
des cas plus physiquement.
Il y en a qui vont avoir développé plus ou moins certains types de symptômes, mais même si il y a des points communs, mais c'est déjà énorme, bien sûr. Et donc c'est vrai qu'en même temps je me suis dit en même temps on va avoir retiré le terme Corée, de plus appeler Huntington la Corée de Huntington mais maladie de Huntington, ça a contribué à encore renforcer le côté médical et à dépeupler un petit peu finalement la maladie de son énigme. Et la Corée, c'était une manière un peu de redonner de la puissance, de mettre un petit peu d'énigme dans cette affaire là et c'est vrai que on peut se demander, pourquoi pas, si on suit un petit peu Vinciane, là c'est pas au niveau du deuil, mais au niveau de des êtres, ou des esprits qui peuvent nous agir aussi, ou nous faire agir. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait agir, qui fait danser ces gens? Et c'est ce qu'on pensait, d'ailleurs, à l'époque, il y a très longtemps, quand on parlait de l'annonce de Saint-Guy, ou quand on parle de la tarentule, ou de la tarentelle, la danse et la tarentelle. Qu'est-ce qui les met en mouvement, ces gens? Est-ce que c'est parce qu'une fois qu'on dit que c'est un symptôme et que ce sont des mouvements incontrôlables, on peut pas en faire grand-chose.
Pareil de la cognition aussi, on dit juste trouble cognitif, alors que si on a vraiment été sur le terrain à discuter avec les gens, à faire des entretiens, des trucs, des machins, on parle de démence dans les symptômes par exemple. Or, on n'a jamais constaté aucune démence. Quand on discute avec les neurologues, ils disent non, mais c'est vrai. Mais parce qu'on est obligé de dire démence, parce qu'en fait, il y a une altération cognitive, et c'est comme ça qu'on dit en neurologie. Je dis oui, mais...
est-ce que tu parlais de schizophrénie aussi?
Ils disent ce type psychotique, machin, mais c'est pareil. Il y a vraiment, mais genre 1% des Huntingtoniens qui développent des troubles psychotiques. Il n'y a pas de schizophrénie du tout. Il y a une altération, en effet, par contre, très profonde et très particulière de la manière... Enfin, ça n'arrive pas en un coup, en plus. Tout ça, ça prend vraiment des années aussi. Ça, c'est très important. Notamment un ralentissement des fonctions cognitives qui font que, pour dire les choses très schématiquement, les gens se mettent à plus pouvoir penser à plusieurs choses en même temps, ce qui est très invalidant, etc. Mais si on se met à accompagner ce mouvement-là et à apprendre des manières d'être avec les personnes huntingtoniennes qui prennent en compte ça, ce que tu dis sur le mouvement, ce qu'on vient de dire sur la cognition, ce que tout ça implique comme conséquence sur la psychologie et son comportement, parce qu'évidemment, quand il nous arrive ça, on ne va pas être juste aussi normal dans notre manière de se comporter, c'est normal. Ce n'est pas la maladie qui nous fait devenir agressif, mais c'est le fait de ne pas pouvoir dire avec nuance, comme d'habitude, des choses qu'on voudrait dire, et qu'on est tellement ralenti et tout va très vite, donc au bout d'un moment, tu es bien obligé d'essayer de rattraper. La seule manière de rattraper, c'est d'avoir de l'éclat, c'est-à-dire de lancer une injure, ce qui va plus vite que « Non, je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. » C'est « Non » ou « Stop »
Et du coup, c'est vrai que très vite, y compris les proches, on pathologise, c'est-à-dire qu'on dit « Non, mais ça, c'est la maladie. »
Oui, il est agressif.
Il est agressif, c'est la maladie.
Ça rend agressif.
Alors qu'en fait, on ne cherche même plus à savoir pourquoi et à reposer la question. On en parlait il y a deux jours à Casma avec les entendeurs de voix, de dire à un moment donné « Mais... » Juste reposer la question, mais pourquoi tu t'énerves? C'est tout, il y a peut-être une raison, c'est tout. C'est pas forcément, forcément parce qu'elle est mal.
Par rapport à ça, pour revenir à la question de l'altération cognitive, ou altération de l'humeur, ou altération de ceci, c'est là. Ce qui est drôlement intéressant, c'est que cette affaire-là, c'est une altération du collectif. Quoi. Parce que tous les processus, les nouveaux processus d'accordage ou des désaccordages, tout ça, si elles ne se posent pas en termes relationnels avec ceux qui sont autour, ceux qui ont envie d'être eux, se laisser prendre. Quoi, par c'est en fait toi qui es aussi altéré dans les modes de relation.
Oui, complètement.
Et celle-là, c'est la question un peu éthopoïétique. C'est-à-dire comment.
Mais ça aussi, par exemple.
On habite ensemble.
Mais tu parlais beaucoup de mutation, en fait, c'est une mutation collective aussi.
La mutation, c'est encore un peu différent.
Oui, mais dans le mot que tu dis, pourquoi pas. C'est une contrainte, en tout cas, en effet, de, que tout le monde se bouge.
Et du coup, ça ne marche pas. Et du coup, d'enfermer aussi, effectivement, les malades sujets dans un truc, dans un symptôme, par exemple, comme le déni ou la nosognosie, ou alors on parle d'anosognosie, par exemple, pour Huntington, comme les gens n'auraient pas conscience tout à fait d'être malade, ou en tout cas pas forcément avoir conscience qu'ils bougent, ou avoir conscience que, qu'ils sont comme ci, comme ça. Mais oui, on peut le voir comme ça, en même temps, est-ce que ça apporte vraiment grand-chose de le voir comme ça? Par contre, si on se dit qu'en fait c'est plutôt une stratégie, parce que justement le malade il est toujours en relation avec son entourage et qu'il cherche aussi à le protéger, qu'il cherche aussi à trouver une stratégie pour se mettre, pour trouver une position confortable, pour pouvoir être bien aussi avec les autres. Donc parfois on réduit très vite des situations à des situations. Enfin, on va le définir comme non mais il veut pas voir qu'il est malade. Peut-être pas vraiment la question. Et alors, s'il veut pas le voir, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ou il va se mettre comme ça parce que c'est mieux pour l'ensemble de la situation familiale ou de la situation. Parce que là, c'est vrai que c'est souvent dans les familles.
Il y a des raisons et très élégantes pour aller vers le tact ontologique dont parle Vincennes dans son texte. Tout à fait, des personnes dans une famille ou par rapport au social ou par rapport à elles-mêmes. De ruser avec leur propre être malade ou devenir malade et pas tout le temps oui je suis malade, oui, je suis bien déprimée car je suis malade, ce qui au fond quand on suit le déroulement ne faut pas faire du déni ou de la nosognosie, ça c'est ça. Je suis malade, moi c'est ce qu'on m'a dit, il va falloir que tu fasses le deuil de ta normalité, etc. J'ai vraiment pas eu du tout le sens de la propos en disant enfin, chouette. J'aurais dû dire. Mais bon.
Oui, mais sur le moment, mais justement, ça aussi, ça en dit long. C'est que quand tu es sur le truc, tu te dis pas, tu vas pas commencer à avoir le sens de la répartie face à un psy qui s'est dit. Non, mais il faudrait bien quand même que.
Voilà. Donc il y a tout un programme. Or, qui pathologise, qui n'arrête qu'un. Alors c'est pas possible. Peu importe. Les effets sont là, c'est que ça pathologise avant même que ça ait lieu. Là, je discute avec une jeune fille dont le papa a été faire le test quand il avait 45 ans, pas du tout encore malade à l'époque, et sa femme, le fait même qu'elle ait su qu'il était porteur, elle a commencé à se comporter avec lui comme un malade. Et donc, en fait, maintenant, seulement à 65 ans, il commence, parce qu'il a de la chance, et assez tardif dans son cas, à développer. Donc, il avait vraiment beaucoup une attitude. Mais sa fille, est maintenant, elle a du recul. Elle dit, en fait, ça fait 20 ans. Là, elle voit que, ah oui, ça, c'est malade. C'était pas avant, et... Voilà, donc
ça fait beaucoup de dégâts, hein. C'est pour ça que c'est important de comprendre beaucoup plus finement tout ça.
Ça fait évidemment, ça pourrit quelque chose qui pourrait finalement se passer, certes, avec des... On ne dit pas que c'est super cool Huntington, mais on dit que c'est possible que ce soit autrement que la catastrophe qui est annoncée déjà, et ça on l'a vu chez des usagers qui ont développé des manières très très chouettes de vivre ça, et dont juste comme par hasard, que ça correspond avec une manière autour d'en faire quelque chose de chouette. Et du coup, pour quand même parler du travail de l'approche de Vinciane, on cherche comment on va pouvoir cultiver des manières différentes de prendre tout Huntington pour pouvoir revisiter ce test. Parce que ce test, on ne pourra pas juste dire d'emblée, il faut le faire comme ci, comme ça, en fait ça, il ne faut pas faire ça. Avant d'avoir fait tout le boulot, et c'est pour ça que c'est un gros travail, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, pour changer ce dont il est question, c'est-à-dire la maladie de Huntington, le cours naturel des choses, et de faire prendre des chemins non déterminés à l'avance, non dessinés, non pathologisés à l'avance, mais où l'on apprend. Il y a une très très belle expression de Vinciane, enfin qu'elle reprend de quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui est Christine Berger, qui dit qu'il faut passer d'une pathologie de la douleur à une pédagogie de la douleur. C'est-à-dire comment on apprend des manières de cultiver ce mot aussi. Certes c'est douloureux, certes c'est spécial, mais on peut développer des choses de puissance, des points de puissance en fait, à partir de ça, de vitalisation, de l'expérience, de partage de ces expériences, de transmission, de manière de faire intéressante avec ces expériences.
J'ai l'impression que le test est tellement déterminant. En fait, vos actions, elles vont à lutter contre cette... Enfin, c'est-à-dire que la finalité, elle existe et elle est impossible à changer, médicalement. Et du coup, vos actions, elles viennent ajouter de l'indéterminé là où on t'avait tracé une voie.
Contre la sentence, en fait. Ouais, qui constitue, sinon.
Mais en fait, mais c'est pas le, c'est le chemin qui va être modifié plus que la sentence.
Parce que la sentence, c'est la sentence aussi, parce que justement, sinon, on aura fait que la moitié du travail. Ouais. Ah, il faut, moi, ah, il faut. On est juste. On est ambitieux à ce point-là.
Moi, je parle de la finalité. Toi, tu parles de la sentence énoncée
ou non, mais que ce soit plus une sentence de mort. C'est-à-dire que, certes, voilà, de toute façon, oui. Ici, on va tous mourir. Moi, je vous fais votre test, vous allez mourir. À tous. Ouais. Voilà, à part peut-être Mathilde.
Oui.
On va tous mourir. Mourir. C'est pas le problème de savoir qu'on va mourir. C'est ça, c'est de faire de la curabilité, l'incurabilité d'un titan. Ce n'est pas le problème de cette maladie. Le problème, c'est bien de le vivre totalement comme une vie digne.
Mais c'est ça le lien aussi avec
et donc, du coup, ça changera. Parce que même si, du coup, si on arrive à aller jusque-là, que les médecins, au bout d'un moment, sont contaminés par ça, ils ne feront plus passer le test pareil. Ils diront, vous avez ce truc-là, bon, on va faire quelque chose ensemble, parce que c'est une culture,
c'est un rapport à la mort qui est, de dire ça, enfin de dire tu vas mourir, enfin, ça montre bien qu'en Occident, on a oublié qu'on allait mourir. Enfin, il y a une phrase, là, je ne sais plus, sur la mort, quoi, un monsieur a dit tout à l'heure, où on a un problème avec la mort. Enfin, c'est sûr que tout le monde se croit immortel, tout le monde se croit important.
Et du coup, ça en fait un.
Ah merde, tu vas mourir, bah, toi aussi.
Et en fait, ça en fait un faux problème. Et c'est vrai que la médecine, comme elle se construit dans un rapport, il faut trouver des remèdes, de guérir. On parle en termes de guérison, de trouver des remèdes, parce que c'est là qu'elle doit agir. Donc on peut comprendre hein, qu'elle se dise. Bah... Sauf que là, effectivement, il y a un truc qui coince, ils n'ont rien à proposer, quelque part.
En plus, ouais.
Puisqu'ils n'ont pas. Enfin, dans leur pratique et dans leur façon de faire, ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont pas de traitement à proposer. Et du coup, le problème, en fait, est mal posé. Ça, c'est quelque chose que Catherine Soljou dit très bien dans son livre, elle reprend la définition de problème de Deleuze qui dit mais il y a un problème n'existe pas sans sa solution. Donc si, là en l'occurrence, il n'y a pas de solution dans la manière dont la médecine le définit. Donc s'il n'y a pas de solution, le problème est mal posé. Ce n'est pas un bon problème. Et donc nous, en fait, on essaye aussi, pour le dire encore autrement, de construire un bon problème, en fait, avec ça.
Vous auriez dû, dans l'idéal, penser à comment accompagner ce test avant même de le rendre disponible.
Sauf que là, maintenant, c'était trop tard. C'est sûr que la créature allait aller.
Mais parce qu'au départ, aussi, quand ils ont cherché le test, il est né, en fait, quand ils ont cherché le gène responsable, c'était aussi pour trouver un traitement.
Ça leur a échappé.
Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le traitement.
Et c'était pour soulager.
Ils ont cru, il y a cette famille.
Bien sûr, ça venait des familles, absolument, qui étaient la première. Et une autre manière de poser ce problème-là, c'est pour créditer un peu la psychologie, parce que c'est pas. Moi, par ailleurs, je trouve que c'est vraiment un métier fabuleux. C'est aussi dans Vincennes des Prés, ça, il y a dit à un moment donné que les disciplines peuvent être effrayées. Je trouvais ça magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est page. Je ne sais plus, attends, j'ai noté. C'est page 165. 165. À un moment donné, ça passe comme ça dans une phrase. Elle dit.
Comme stupéfait, par
exemple. Non, effrayée, elle dit. Hein. Elle dit. Elle parle de Charcot, les automates ambulatoires, ces somnambules errants, dépossédés de volonté, mus par des forces incompréhensibles, que la psychologie, effrayée, se chargera de ramener quand c'est possible à la raison. Elle n'en fait pas un point, mais moi je me suis dit, mais oui, une discipline peut être effrayée. Je trouvais que c'était intéressant. Au fond, la domestication, elle parle de domestication des intériorités, des subjectivités par la psychologie, qui soit un peu en contrepoint, j'imagine qu'un atelier comme celui-ci s'insurge, vient peut-être de ce que. C'est pas tant. Il y a des personnes, mais il y a aussi qu'une discipline entière peut être effrayée, enfin, telle qu'elle a été. Certes, c'était.
Ça crée des monstres, quoi.
Pour des buts de rationalisation, etc. Mais on peut aussi l'expliquer par frayeur.
Et la médecine, d'ailleurs, justement. Et ça, les médecins eux-mêmes le disent, en fait. Ils sont eux-mêmes effrayés par la maladie. Et du coup, ils transmettent leur frayeur. Et c'est pour ça aussi qu'ils construisent mal le problème. On les comprend. Moi, je ne juge pas. C'est terrible d'annoncer une nouvelle comme ça. C'est vraiment pas évident. Sauf que, du coup, en plus, ils ont tendance à transmettre par le pire. C'est-à-dire, ils vont vouloir dire. Ce qu'ils ont vu de pire dans cette maladie, parce que dans l'intention de prévenir, par précaution, de dire, enfin, faut que vous sachiez que quand même ça peut être aussi ça. Et du coup, ils vont aller eux-mêmes, ils sont effrayés en fait. Il y a une frayeur.
Ça, c'est aussi typique, non, de notre société occidentale, de se dire que si tu sais la puissance du savoir. Si tu sais, tu serais soi-disant capable de l'anticiper, mieux l'anticiper.
Sauf que c'est là où.
De mieux le prendre en charge.
Alors. Sauf que ça, c'est vraiment, il donne le relais à la psychologie. Toujours, si tu veux, dans le protocole, c'est très clair. Hein, il donne à ce moment-là le relais à la psychologie. C'est là où moi, je suis. Pourquoi pas hein. Pourquoi ? C'est une très belle question. Moi, je me suis posé cette question-là. On a dit, oui, si tu sais, au fond, tu vas pouvoir créer quelque chose vis-à-vis de ça.
Ce que tu as cherché à faire aussi en rentrant dans le test.
J'ai cherché à... Mais c'était pour ouais. ça, bien sûr. Et c'est là où on se tourne vers la psychologie. Qui, en gros, bon, bah, la réponse, elle est en toi-même, ce qui est le grand truc de toute façon de la psychologie. Hein, ça, c'est pratique parce que, bah, non, j'étais là, quoi, où, c'est-à-dire, moi, j'étais là en train de me dire, est-ce que c'est une métamorphose ou est-ce que je suis possédée par une créature ? Enfin, je me posais des questions comme
ça. Tu étais encore psychologue à l'époque ?
Bah oui, je suis toujours, parce que jusqu'à ma mort.
Mais tu pratiquais.
Oui, bien sûr. Oui, j'ai pratiqué. Et donc, c'est dommage. Sauf que moi, j'étais comme tout soignant qui part de l'autre côté du barrière, complètement patient. Je veux dire, enfin, on n'est plus psychologue du tout. Hein. Ça ne veut rien dire, ça, cet endroit-là. D'ailleurs, Sachs a fait un livre là-dessus, quand lui-même, le neurologue Oliver Sachs, a eu un problème neurologique dans sa vie. Il est devenu parfaitement patient. Et en même temps, il a compris qu'il y avait des gros problèmes dans la prise en charge. Donc, c'est là où il y a un très bel enjeu, je veux dire, quand même, d'inventivité de la psychologie, où on peut être utile parce qu'elle ne peut pas penser tout seul. Tu vois, j'ai envie de ne pas l'assassiner tout de suite. Je suis complètement d'accord hein, avec l'objet de ce séminaire. La dépsy, machin, truc, bien sûr, je suis à fond dedans. Mais on se dit, mais en même temps... C'est quand même un métier qui pourrait justement se dire à partir d'un truc impossible comme ça, on crée une clinique différente, quoi. On crée justement un truc désaccordage, collectif. Enfin, il y a un champ. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, tu vois ? C'est une question moi, que je me pose comme.
Mais moi, je pense que. Oui. Je pense qu'on n'y va pas vraiment. Mm-hmm. Mais il faut faire à côté, quoi. Mm. Et que les psys sont débrouillants, quoi. Mm. Franchement, je pense qu'il y a presque une incompatibilité foncière. La psy est tellement dans une logique des fondements, dans une logique, ne parlons pas des structures, ou je ne sais pas quoi. Bon, tant pis, quoi, tu vois, mais je pense qu'on n'a pas pour raison de sauver les psys
de
même.
Non, 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 du tout. Non, non, mais par contre, d'en faire quelque chose.
Par contre, il y a des moments où les logiques ne sont pas forcément très amicales. Hein, il ne faut pas s'en priver par une sorte de. Dans toute affirmation première de quelque chose comme mon existence, il y a la possibilité que quelque chose d'autre vienne nier cette possibilité affirmative. À un moment donné, il y a conflit. Quoi. Il y a conflit.
Ah ben nous, on va complètement.
Ah ben on expérimente avec une. Enfin, avec... On a essayé de mettre en place un dispositif diplomatique, mais ça n'a pas du tout marché.
Ouais. On peut même dire que les disciplines sont parfois pathologiques.
Pathologiques.
Oui, d'une certaine manière, ils ne confrontent pas leur propre pathologie, de normativité, parce qu'effectivement, là, il y a, dans cette transformation, il y a une espèce de double articulation de la transformation. Il y a la transformation vraie qui aura lieu, mais qui est tellement d'un continuum de transformation, de micro-transformation, et en même temps, il y a la transformation, on peut dire... Deleuze a parlé de questions de transformation incorporelle qui est linguistique, c'est un acte linguistique un peu même un peu dire performatif qui transforme une situation de ça à ça et qui est instantanée. Et à ce moment-là, cette transformation ça transforme d'une certaine manière les statuts, justement, le statut d'une chose. Mais que de dire tu étais de ce côté-là, maintenant tu es de ce côté-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas par rapport à une espèce de structure binaire qui dit de ce côté-là on est bien, de ce côté-là tant pis. Et je pense que la question c'est de d'une certaine manière de construire quelque chose comme une espèce de territoire qui fait une espèce de pont. Ou pas, même élimine un peu cette question de barrière, parce que la barrière, ça sert à autre chose. Ça ne sert pas à l'usager, ça sert simplement à protéger un système complètement, à mon avis, pathologique de normalisation de la société. Mais pas seulement de cette maladie-là, mais dans toute une série de pathologies.
Ça, c'est sûr.
Et qu'il y a une certaine fonctionnement de choses.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de modèle un peu...
Ah oui, pardon. Il faut se...
peut-être que je suis assez d'accord, mais en fait, du coup, en partant de là, en fait, même dans le discours que vous développez, alors je suppose que c'est compliqué parce qu'il doit y avoir une forme de vulgarisation par rapport à personnes qui ne connaissent pas du tout l'enjeu et le sujet. En fait, rien que le fait de parler de maladie ou d'une tiptonien en général, des personnes qui ont la... Alors, je ne sais pas comment utiliser un autre mot pour décaler le truc, mais on place en fait un état de norme, en fait, je vais essayer de décaler en fait le truc. Ce qui est intéressant, c'est les questions qu'on se pose autour des perceptions de cette maladie. À un moment, je ne sais plus qui a dit ça. C'est essayer de généraliser le problème à pas juste le clipton, à pas juste un test pour cette maladie, mais qu'est-ce que les tests en général fabriquent comme normes dans la société, qu'est-ce qui transporte la personne d'un côté de la barrière à un autre côté de la barrière. Bon, on n'est plus normal, on est malade, et malade dans l'aspect idéologique général, c'est destiné à une certaine mort, et la mort qu'on a définie, hein, c'est il n'y a pas d'après, il n'y a pas de truc, c'est une mort laïque, c'est une mort... En tout cas, en Occident, en France en particulier, mais après, on peut être croyant, on peut être spirituel ou pas, mais la médecine promet, à travers l'utilisation du mot maladie, une certaine forme de déchéance sociale et après de déchéance spirituelle, en fait. Et le fait d'utiliser avec le mot ou de dire vous faites partie de cette population d'un cliptonien, c'est dire, en fait, même si après on veut aider, en fait, c'est déjà à la base mettre les personnes dans le gouffre, en tout cas, vu une et c'est ça qui est compliqué, en fait.
C'est
tout dans le mot, dans les mots qu'on utilise ou dans les concepts, j'ai l'impression que... Ouais.
C'est tout à fait... Non, mais c'est tout à fait... C'est vachement important ce que tu me soulèves, parce que c'est aussi que par ailleurs, on est aussi dans un truc un peu de militance où on est... Justement, il s'agit aussi d'arriver à faire... d'une certaine manière communauté, parce qu'on était des usagers juste épinglés, enfin des patients plus exactement épinglés, chacun complètement impuissant dans notre devenir, de toute façon c'est foutu, il n'y a plus qu'à attendre, donc beaucoup de suicides, hein, je veux dire, beaucoup de suicides dans cette histoire, etc., etc., donc vraiment des trucs pas cool, et que le fait, quand on a commencé à voir que ça faisait du bien de pouvoir se rassembler, parler, et qu'on pouvait être aussi dire un tiptonien en disant, bah, et alors, virgule, et alors pour l'interrogation. Voilà, c'était une manière de... Il y a une revendication aussi.
Oui, bah, et aussi de chercher sur le... c'est aussi de nourrir une forme de compétence par rapport, par exemple, aux entendeurs de voix, bah, qui s'appelle entendeur de voix et pas schizophrène. Un tiptonien, c'est peut-être pas encore le bon mot, même si au départ, c'est intéressant peut-être... au départ, quand on l'a utilisé, nous, ce qu'on trouvait justement générateur de communauté et de compétences, il n'a pas forcément été bien reçu, effectivement,
les entourants qui sont
surtout les
proches, mais par contre, les malades eux-mêmes adorent ce nom-là.
Mais les proches, ça les choquait, parce que pour la même raison que vous venez de le dire. Et alors que pour les personnes directement concernées malades, ça, c'était beaucoup moins problématique, parce qu'au contraire, eux, ils avaient besoin de cette communauté. Enfin, on sent qu'ils ont besoin de cette communauté-là. Donc, c'est pas aussi simple. Maintenant, est-ce que peut-être qu'il y a un autre mot? Maintenant, on a trop zen-tintonien. Donc, on fait évoluer aussi le vocabulaire, parce qu'on cherche aussi, parce que on constate que beaucoup de tintoniens finissent par être très zen à certains moments, passer certaines difficultés de la maladie, au bout d'un certain moment, ils expriment, ils perçoivent une certaine forme de zénitude, et donc on s'était dit, tiens, zen tintonien, ça pourrait... On cherche aussi ce qui fait puissance, ce qui donne, les entendeurs de voix, ils ont cette compétence d'entendre des voix, ils ne veulent pas forcément en guérir, ils veulent gérer, ils veulent négocier, certains veulent ne plus en avoir, d'autres veulent en garder. C'est quoi un tintonien, quoi?
C'est dynamique, c'est-à-dire que c'est pas fini, voilà. Mais par contre, l'histoire de éradiquer le mot maladie, on y, peut-être qu'on va vers là,
moi je commence à avoir
parce qu'il y a d'ailleurs des éthiciens qui disent à partir du moment où une maladie est incurable, au fond, est-ce que ça reste une maladie? Ce qui est très intéressant, c'est comme des troubles chroniques, enfin les maladies chroniques, diabète, SEP. C'est un vrai truc. Est-ce que du coup, ça devient un devenir avec. Ils ont un joli truc, ils ont proposé combinaison évolutive de handicap. Mais pourquoi pas,
ce qui m'embête, c'est pas vraiment l'utilisation du terme maladie en soi, c'est dans le cas en fait. En général,
il y a une époque où on pratiquait la médecine par rapport à la diagnostic générale ou maintenant.
Il n'y avait pas de
catégorie, en fait. Justement, en fait, à la base, beaucoup de la médecine, c'est basé sur des catégories, sur des généralisations au niveau de population. Maintenant, la marotte ou l'envie de la médecine, c'est d'aller au cas par cas, d'avoir un individu, un diagnostic particulier et un traitement, ce qui est complètement très compliqué, voire aberrant. Mais c'est pas le problème, mais je pense que c'est là où en effet la médecine aurait un intérêt. C'est maintenant de plus dire la maladie est quelque chose qui est par une population. Alors à travers un test, je peux dire que toutes les gens de cette population vivent à peu près la même chose ou vont avoir un destin commun qui est le destin des huntingtoniens à travers cette maladie qui est à la base génétique. Donc s'ils ont le marqueur machin, ils vont tous vivre la même chose au final. Et c'est de retrouver en fait dans la catégorie d'antiphonien ou de malade de quelque chose, peu importe, l'individu qui a des parents différents, une vie différente, une spiritualité différente. Et c'est essayer de casser, alors c'est dur parce que c'est aussi beaucoup de travail sur les mots, je pense, mais de casser la normalisation qui est beaucoup plus forte de toute façon. On revient toujours, si vous dites maladie, inconsciemment, nous on a tous été. En tout cas, moi, je ne parle pas, mais j'étais habitué à entendre maladie d'une certaine façon. Quand c'est mon médecin qui me le dit, je ne vais pas remettre en question. Alors oui, ok, mais en fait, maladie, c'est si je prends juste pour moi par rapport à ma vie, machin, ça veut dire quelque chose et dans une certaine forme d'idéologie. Et je pense que le fait d'utiliser certains mots, même si on veut les retravailler après, bon, on va le garder, mais on va le retravailler, c'est difficile parce qu'on a grandi avec des idées préconçues sur une catégorie, un label, une étiquette particulière.
Donc,
essayer de le hacker, le retravailler, c'est parfois pas possible. Il faut trouver des mots différents.
Ça dépend, en fait. C'est intéressant comme question, mais moi, je dirais que... C'est bien parce qu'il y a tout cet historique et parce qu'on est en train de ça, qu'on peut pas l'éliminer comme ça non plus. Et après, la question, mais non, et ça, moi, le terme maladie me gêne le plus en plus, et en même temps, j'ai pas encore trouvé d'autres manières de... Alors, est-ce qu'il faut inventer un nouveau mot? Je sais pas. Moi, j'aime bien aussi ces histoires de garder les histoires des mots et tout en les modifiant un peu. Une espèce de formule là, qui s'appelle des métaplasmes que je trouve intéressante, de comment revitaliser un terme qui a pu être galvaudé, mais tout en gardant aussi... Alors, bon, le mot maladie est très compliqué, mais...
C'est parti, tu veux t'entendre aussi, peut-être. Entendu.
Oui, puis ça dépend aussi de l'efficace, encore une fois, du mot aussi. Si, pour l'instant, le mot maladie nous sert quand même à faire cette alliance, par exemple, avec la médecine, c'est utile de le garder. Ça dépend pourquoi on le garde et comment on le garde et ce qu'on en fait.
Mais je trouve que en revenant aussi en partie au texte d'anciennes, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est comment. Un truc qui est très compliqué pour la gouvernementalité à partir de la norme, c'est qu'en réalité, on ne sait jamais ce que c'est la norme, à part si on ne considère pas ces écarts. Quoi. La norme, on ne sait pas, parce que c'est quand on te dit, faites l'éveil de votre normalité, ben merci. Laquelle, quoi? Parce que ça présuppose une logique un peu de transcendance. Quoi. La norme, c'est quelque chose qui serait déjà là.
Marcher normalement, penser normalement.
Oui. Oui, encore. Il faudrait voir que c'est la subjectivation par l'économie, tout ça. Enfin, je ne sais pas si c'est laissé aussi homogène. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment, l'avantage aussi, c'est qu'en instituant les pathologiques, on institue aussi la possibilité qu'il y ait des nouvelles logiques, des productions immanentes de la norme. Quand elle raconte l'histoire spiritiste, on se rend bien compte qu'il y a un dispositif qui fait que les gens, et c'est un dispositif de guérison quand même, les gens se mettent à faire exister les morts d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on parlait des antoinistes, l'église antoiniste qui est à côté de chez toi. Tu avais raison, c'est une église guérisseuse qui, il y a un moment de fondation, c'était un mineur flamand, je crois, un mineur belge, qui avait eu des visions. Et à partir de là, il a incorporé, il était spiritiste avant. Bon, il avait quitté le catholicisme, il s'était mis dans le spiritisme. Et à partir du spiritisme, il avait quitté les cercles spiritistes. J'ai regardé après notre échange. Il a quitté les cercles spiritistes, il a fondé cette église-là, qui est une église qui ne prétend ni à la conversion, ni au prosélytisme, simplement à des formes de guérison, à partir de cérémonies très simples, dans lesquels, bon, il faudrait voir de près, je ne vais pas être long par rapport aux antoinistes, parce que... Mais,
Antoiniste.
Les antoinistes, oui, antoinistes.
Mais ça, c'est dans un lieu en particulier.
Oui, c'est à Saint-Antoine.
Ah oui, oui. Il y a une église à place de fête, il y en a d'autres en France, il y en a surtout...
Saint-Antoine, et qu'on soit malade ou qu'on soit endeuillé, c'est un endroit où on peut communiquer... avec, soit faire des prières de guérison, le collectif prie pour que quelqu'un qui est malade aille mieux, soit je crois qu'il y a des trucs avec les spirites, je ne suis pas sûre, mais c'est surtout pour la guérison.
Il y a une pensée
de
la réincarnation, et donc la présence des morts, comme on convoque les... Mais
je suis jamais allée.
L'officiant...
Je connais des gens qui sont allés, mais je ne suis jamais allée, mais il faudrait y aller.
L'officiant ne révèle pas, n'est pas dans une logique de révélation, il est plutôt dans une logique « tu vas voir ». Là, on ouvre un truc et tout va voir. Je ne sais pas si ça va aller mieux ou pas mieux, tout ça, tout va voir. Bon, après, il faut voir leur protocole.
Alors qu'elle parle beaucoup, Vincent Després, des dispositifs d'apparition, de comment on fait apparaître quelque chose.
Présentifie, c'est pas apparaître. C'est vraiment le mot bien précis, c'est présentification, justement. C'est pas de l'ordre du fantôme.
Ouais, il y a quand même déjà un canal.
C'est une espèce de protocole de présentation.
Tout, c'est un protocole, absolument. C'est très, très...
Ritualisation du protocole pour...
Absolument.
Et voilà. Je voulais juste, pour finir mon propos, c'est qu'avec l'histoire de ton ordre de voix, c'est très chouette, mais on voit une chose, c'est qu'il y a des émergences permanentes. Il y a en permanence des émergences des gens qui disent j'ai des hypothèses et je suis virtuellement un fondateur d'église. Quoi. Et comment ça se négocie, tu vois, comment ça se négocie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est une logique de constellation qui subsume un peu ces mouvements-là? Parce que ça pourrait aussi partir en vrille, quand tu essaies de convertir les autres, etc. etc. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Par quelque chose d'un peu étrange que je n'arrive pas encore à saisir, qui fait qu'il y a un style, il y a une manière, il y a une atmosphère singulière.
Bah, c'est parti de leur règle, ils disent dans leur règle des entendeurs, ils disent quand ils font... Il y a quelques toutes petites règles dans la façon dont ils animent un groupe de parole. La première, c'est justement, tu ne convertiras pas ton prochain.
Oui, oui,
enfin, dans ce groupe, tu fais ce que tu veux à l'extérieur, mais ici, on ne se convertit pas les uns les autres. Oui. C'est le seul truc.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce processus d'émergence qui reste là, mais qui a la vitalité d'un possible qui ferait église, et qui ne le fait pas, parce qu'il y a une sorte de consensus sur un tas de trucs, tout ça, tu vois. Mais il y a cette vitalité possible. C'est, je pourrais être fondateur d'une église
Noël sec. C'est vachement important comme question, mais au niveau psychopolitique, c'est aussi de ne pas faire école, par exemple, parce qu'on en a parlé longtemps de faire école. Mais maintenant, je pense qu'il faut juste surtout pas faire école.
C'est drôle ou difficile, parce que même les constructivistes font l'école.
Mais alors, est-ce qu'au bout d'un moment, le pas faire école devient.
Ça, c'est la magie du capitalisme, de se demander si tout est rien.
Exactement.
Et c'est ce que tu commences à raconter, que vous aviez une nouvelle branche que vous vouliez ouvrir sur le transpato.
Ouais,
c'est pas faire école, mais c'est quand même se rencontrer entre...
C'est vrai que jusqu'à présent, on avait tenu en disant non, on travaille de manière située, c'est Huntington, on commence pas à faire des généralisations parce que c'est trop dangereux, c'est important. Et là, faut qu'on trouve, vu qu'on est quand même sollicité, on va dire, par les autres, on doit trouver des manières
de... On a remarqué qu'il y a des endroits où ça fait, quand on se contacte avec d'autres pathologies, de personnes qui sont elles-mêmes en Alzheimer, Parkinson, les entendeurs, par exemple, etc., il se passe vraiment, on a vraiment besoin de se parler, d'échanger sur des trucs aussi, je veux dire, parce que c'est vachement dur d'avoir... d'imaginer des choses pertinentes sur tout ça, et que les entendeurs, ils m'ont appris des trucs formidables. Moi, je sais que j'apprends des choses aux Alzheimer, et puis les Parkinson vont m'apprendre quelque chose. C'est sur des façons comme ça où on se passe.
Après aussi,
ça veut pas dire que tu fais modèle.
Non, et après, c'est aussi le concernement qui grandit, parce que Huntington, ça reste quand même donc une maladie neurologique, si on le prend sous la définition de la maladie. Et Alzheimer, Parkinson, nous, on n'avait pas trop au début, on ne savait pas trop comment, on pensait même qu'on était un peu en retard sur les questions justement d'implication des usagers dans la coproduction de savoir. Sur ces... Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un problème avec les maladies, entre guillemets, neurologiques, où effectivement l'usager n'est pas pris en compte parce que, par définition, on les traite presque de démons très vite. Donc à partir du moment, très vite, on leur retire en fait leur capacité de penser. Donc forcément, on ne va pas les interroger si on estime qu'ils pensent plutôt. Je fais un peu, un peu raccourci.
Mais c'est très symbolique, mais c'est, quand tu regardes l'association française Alzheimer, ça qui existe depuis 35 ans, ça fait seulement 2 ou 3 ans qu'ils se posent la question de que pense la personne malade, parce que c'était l'association des familles Alzheimer, c'est forcément famille. C'est déjà... Donc pour dire que c'est aussi des mouvements qui commence à peine. Hein,
le tissu associatif, en fait, on se rend compte de plus en plus, on a été rendu compte très vite avec Huntington, mais maintenant, effectivement, aussi avec Alzheimer, Parkinson, etc., que les associations sont tenues. On était assez frappés au tout début. Il y a quand même une quinzaine d'associations Huntington en France, tenues que par des proches. Et donc, ça veut pas
très,
dire que.
C'est très dur hein, de monter une association quand on a une pathologie oui, psychiatrique. Je voyais, en tout cas en milieu hospitalier par exemple.
Oui, mais de là, ce qui est pas. Oui, il y a une marge aussi entre. Mais entre gérer une association et qu'il n'y en ait même pas dedans.
Chez les neuros, non, c'est pas interdit, mais c'est difficile.
Non, mais il y a même des associations Huntington qui disent on ne peut pas avoir de patients, de malades dans l'association.
Dans l'association CA. Parce que ça va nous brouiller.
Dans les adhérents, mais dans le CA. Donc c'est pas juste. C'est parti.
Je voudrais poser une question. Est-ce que vous avez des contacts, des rapports, un travail commun avec, par exemple, des gens comme ACT-UP ? Parce qu'eux, ils ont quand même une expérience politique de l'action collective, de la réflexion, de la prise en charge
de la maladie.
Bien sûr. Il y a tout un parcours, toute une histoire et toute une expérience.
Ça nous intéresse beaucoup. On a encore un petit peu de mal à. Enfin, il y a une personne dans notre collectif qui s'appelle Émilie H, qui est philosophe et qui a pendant de nombreuses années milité à ACT-UP. Donc, qui connaît bien, en fait, tout ce parcours-là. Et on a rencontré. Enfin, oui, c'est quelque chose qui nous a nourris, même si.
De toute façon, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait si ACT-UP n'avait pas existé.
Non, voilà, c'est ça.
Ça serait évident. Après, le fait de parler en termes d'usage et de Huntington, il y a d'autres trucs. Il n'y a même pas vraiment besoin de les rencontrer tellement on est inspiré. Voilà. Et puis en plus, je crois qu'ils sont moins qu'avant. Donc, on essaie de demander qui voit.
On essaie d'avoir des. Justement, on voulait rencontrer. Et on voulait rencontrer des gens, notamment parce qu'ils ont mis en place des dispositifs. Justement de jeux de rôle, de choses comme ça à l'époque, et on a du mal un peu à avoir beaucoup d'informations là-dessus. Mais après, y a un effet de masque. C'est sûr que ACT-UP, le sida, ça a touché. Nous, on est sur une maladie rare, c'est aussi quelque chose qu'on nous dit souvent ça touche pas grand monde. Hein. C'est bizarre de dire ça, mais bon. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des effets, ils n'ont pas forcément contribué à une redéfinition profonde de la. Pathologie en tant que telle.
Mais ça reste comme super intéressant et on va finir par les croiser, c'est sûr, sur notre chemin.
Mais pourquoi c'était quoi leur.
C'était l'égalité, l'accès aux soins et surtout aussi de. Ce qui était très différent et vraiment intéressant, je trouve, par rapport au sida, c'est que c'était une maladie qui arrivait que les médecins ne connaissaient pas plus que les patients. Et donc ça change beaucoup par rapport aux autres maladies.
Sur la maladie
Elle devait être coproduite.
Et c'est là où très vite les usagers, c'est-à-dire les malades et leur entourage, on dit attendez.
On va les traiter ensemble
comme du bétail.
Début,
exactement. Vous n'allez pas nous traiter comme du bétail. Ils se sont battus pour qu'une prise en charge vraiment. Être partie prenante dans la manière dont on les soigne.
Après, il y a eu un truc fondateur avec Top, c'est le rapport à. Au labo. Non seulement par rapport au traitement qui leur était infligé, eux, dont ils n'avaient rien à dire, parce qu'on avait vu l'histoire des traitements du sida, c'était mais aussi, en plus, un truc qui était très important à un moment d'ACT-UP à l'époque de Philippe Mongeau, donc aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais c'était la question de l'action des laboratoires pharmaceutiques en Afrique, etc. Ouais. Là, c'était un gros morceau d'ACT-UP. Qu'est-ce que c'est une sorte de sous-humanité qui est décrétée par le laboratoire qui fait que les brevets font que tout un tas de centaines de millions de personnes en Afrique ne sont pas traitées, nous, en tant que bourgeoisie blanche.
Oui, il y a des priorités.
Il y avait derrière ACT-UP, il y avait tout un.
Mais il n'y avait pas de. C'était pas changer la manière dont on considère cette maladie. Je veux dire, si, par rapport à l'opprobre social, bien sûr, mais ce n'est pas une redéfinition. C'est là où on n'est pas tout à fait. Mais c'est normal, c'est aussi parce que.
C'est deux choses différentes.
Exactement.
Mais on se nourrit, on essaye de se nourrir.
C'est très différent. Effectivement, c'est très différent. Les situations sociales sont forcément différentes. Mais c'est parce qu'en vous écoutant, j'étais en train de me dire que effectivement, il y a quand même, là, d'un point de vue historique, des tas d'expériences, des tas de groupes qui ont quand même déjà pratiqué qui ont repris à leur compte cette question de production du savoir, de production d'un savoir sur ce qui nous arrive. Et quand j'entends parler effectivement des entendeurs de voix ou autres, parfois j'ai un petit peu l'impression que chacun réinvente un peu dans son coin le fil à couper le beurre. et bon, je le dis un peu brutalement, mais je me dis, vous parliez d'alliance, et ça me semble beaucoup plus, enfin, cette question de l'alliance me semble beaucoup plus pertinente politiquement que la question de fonder des communautés. Enfin, moi, personnellement, sur la question de fonder des communautés, ça me paraît quelque chose d'assez effarant, mais sur le plan des alliances, ça me semble que c'est vraiment quelque chose de...
Pourquoi ça vous semble effarant, la question de la communauté?
Oh, bah, je veux dire, mettre toutes les la même pathologie ensemble, enfin, c'est tout ce qu'on
mais
a...
Non, parce mais alors, que, c'est pas...
Parce que moi, par exemple, mon expérience vient plutôt du champ de la psychothérapie institutionnelle, par exemple. Je sais que ça fait quand même, pas un siècle, mais 70 ans, que les gens dans le milieu psychiatrique se battent, justement, pour éviter de regrouper, les psychos hystériques... Les
mais ça, c'est l'institution
et
qui est aujourd'hui, en mais là, c'est l'institution qui est
oui, mais non. Il me semble que la question, quand même, que collectif, enfin, qu'on fasse des alliances au sein des groupes, me semble beaucoup plus important.
Mais il faut que les groupes existent avant.
C'est là qu'il faut peut-être définir, c'est là qu'il faut peut-être, parce qu'on parle aussi beaucoup, là, par exemple, je vois qu'on parle de collectif, de communauté, de groupe, d'équipe. Là, les concepts existent aussi. Quand on essaye de penser sa pratique, les concepts existent. Et je pense que ça vaut le coup, vraiment, de distinguer ce qu'est un collectif, de ce qu'est un groupe, de ce qu'est une communauté, etc. Donc, il me semble qu'il y a quand même plusieurs histoires, en tout cas, dans le champ aussi bien que dans le champ médical que dans le champ de la pensée, etc.
De coproduction de savoir, je serais intéressée de les connaître, par exemple. Ouais. Parce que ce n'est pas si fréquent.
Par exemple,
de coproduction de savoir, c'est maintenant. Je me suis dit qu'il y a beaucoup d'expériences déjà qui existent et moi je suis curieuse de les connaître.
C'est pour ça que je parlais de la COP, parce que ça fait quand même 20 ans.
Oui, mais ils ne coproduisent pas du savoir, par exemple.
Ils ne coproduisent pas du savoir.
Ah, quand même, je suis quand même sur la maladie, sur la façon. Donc effectivement, de vivre sa maladie, enfin, sa maladie encore une fois dans la définition médicale, sur la façon de la vivre, dans l'action activiste contre les labos.
Non,
c'est quand même
sûr,
une production de savoir par rapport à ce qu'on considère comme une maladie, ce qu'on considère comme une maladie guérissable ou pas, etc. Je pense qu'il y a vraiment une production de...
Il faut quand même participer énormément à modifier l'approche qu'on avait du SIDA, globalement.
Mais d'ailleurs, on s'en inspire.
Depuis quelques années,
qu'on ne peut pas faire des choses.
Mais je trouve ça très intéressant, ce que vous faites par rapport... Mais je pointe, moi, un petit côté, voilà.
Par rapport à la communauté, quand même, ce qui est quand même important, c'est de... Et moi, je l'ai justement bien compris aussi avec les entendeurs, c'est que... Et que moi, j'ai le sentiment, on n'en a pas discuté, mais que moi, c'est ce que je ressens aussi de ce qu'on travaille en ce moment, c'est que la communauté, c'est pas pour faire des séparations, c'est parce qu'il y a un endroit quand même d'expérience. Enfin, les entendeurs de voix, ils se disent experts d'expérience. Il y a un endroit quand même de partage d'expérience qu'on ne peut pas partager qu'entre nous, communauté, et qui doit aussi être partagé avec les autres, mais il y a aussi un endroit où ça doit être partagé. Ce n'est pas exclusif l'un de l'autre. Il ne faut pas non plus, c'est ou, quoi, c'est et. C'est beaucoup de... En fait, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on doit faire beaucoup de et moins de
ou. Et ce n'est pas aussi pour se ressaisir parce que.
Il y a des groupes qui se constituent.
Mais oui, et ça c'est important, ce qu'il faut tout tenir ensemble.
Un groupe qui peut disparaître, ce n'est pas une communauté.
Et c'est aussi pour.
C'est là qu'il faut distinguer peut-être les concepts dont on parle.
Donc, Sylvia, je vais parler.
Parce que
j'ai fait en train de dire quelque chose de très naïf, parce qu'elle a posé d'Olivier, mais peut-être très similaire aussi. Et moi, j'étais aussi mardi à Kiasma, du coup j'ai entendu les entendeurs de voix. J'avais presque envie de dire qu'on pouvait ouvrir de petits groupes pour chaque chose. Du coup, de jouer complètement le côté de dire pour une pathologie, pour une maladie, mais finalement, et c'est très banal ce que je viens de dire, on apprend des méthodes, et c'est la fabulation. Je voulais lire avec vous une phrase que je trouve très belle, le texte de Vincennes, qui relie vraiment votre pratique, la conférence qu'Isabelle Stenger avait donnée sur la science-fiction, que cette idée de fabulation et de partage, de savoir ou de non-savoir, comme vraiment fabrication de la base. Et finalement, on pourrait se dire, on ne peut que construire des petits groupes qui changent tout le temps, qui se modifient, qui se contaminent, qui évoluent en évolution, en mutation, de mutants. On devient tous des mutants, des groupes. Et là, la phrase que je voulais dire avec vous, c'est page 175 du coup de ce texte-là. Du coup, j'étais très frappée par la précision. Du coup, de séances et de la pré-sanctification. Parce que c'est vraiment des mises en scène très précises de comment les esprits reviennent, qu'est-ce qu'ils font avec, quand les gens parlent aussi. Les vivants, ainsi activés et touchés, repartent avec une responsabilité, reconstruire le passé activement pour ouvrir d'autres possibles dans le futur, agir et transformer de manière d'être, non pas rétrospectivement, mais rétroactivement, fabuler activement pour faire passer et sentir des possibles passés inaperçus ou rester en sourdine. C'est l'art des métamorphoses. Et voilà, je trouve
c'est pour ça que le travail doit tout le temps être fait. Ça peut paraître, je comprends, hein, vu d'une perspective comme ça un peu historique, on est en train de refaire des choses qui ont déjà été faites. En fait, non, on est bien obligé, enfin, oui et non, on est bien obligé de.
Je me disais, enfin, chaque aussi situation par rapport à la situation politique du moment, on pourrait dire, on ne peut rien faire.
Il y a quelque chose. Je suis assez sensible au risque de toujours figer les choses. Quoi. Alors qu'effectivement, dans ce sens-là, qu'un groupe naisse, meurt, qu'il y en a un autre qui. Ça se transmette, que ça soit contagieux ou pas contagieux, que ça disparaisse à un endroit, que ça apparaisse à un autre. Ça, effectivement, là on est dans du vivant, quelque chose qui vit. Dès l'instant qu'il y a des choses qui se figent, on va retomber un peu dans les. Dans ce qu'on dénonce par rapport à la médecine qui fige en catégorie, en discipline, en pathologie, en machin, en biographie. Voilà, des tableaux, et c'est simplement les.
Donc c'est ces termes-là, pas... communauté, tout ça, que tu avais
enferme. On emploie des termes, après, il y en a qui peuvent les contester, il y en a qui peuvent les accepter, mais je pense que ça vaudrait le coup de les définir, enfin, ça vaudrait le coup de travailler sur certains termes qu'on emploie. Le terme communauté, aujourd'hui, il est partout, il y en a dans toutes les bouches, on dit tout et n'importe quoi avec, tout et son contraire aussi.
Ah, mais je suis d'accord avec donc, le commun.
Donc c'est pour ça, le commun, le machin, bon, c'est des trucs assez à la mode, avec des aspects très, très pertinents, très intéressants, mais je pense que dans des groupes comme ça, un peu, voilà, un peu informels, ça vaudrait le coup quand même, peut-être, d'essayer quand même.
Et c'est pour ça qu'il y a Donard Ramu qui propose cette astuce de. Enfin, cette astuce. Donna Haraway, donc une penseuse américaine qui aime beaucoup faire des métaplasmes, ce qu'elle appelle des métaplasmes, c'est-à-dire de faire une petite opération sur un mot. Parce qu'on est aussi, moi j'ai peur aussi du danger de toujours inventer des nouveaux mots, parce que d'abord on peut tenir aussi à des mots parce qu'ils sont chargés justement dans toute une histoire, mais effectivement on les reprend. Alors comment on les reprend? Et peut-être parfois en faisant une petite opération sur un mot, en rajoutant un tiret, en modifiant une syllabe, enfin, j'aime bien cette façon qu'elle a de revitaliser tout en gardant donc, l'histoire et en même temps en la reprenant. Mais
ouais, ouais, c'est joli, c'est vrai que vous aviez dit la chorégraphie.
Ouais. Oui.
J'avais l'impression que c'était finalement aussi un premier mouvement, c'est-à-dire cette première colère qu'il fallait mettre en partage. Et même ce premier mouvement qui était contre une absence de prise en considération de cette maladie et qui ne faisait que énoncer une sentence dont on ne savait que faire. Il fallait à un moment donné tout de suite le remettre en jeu, quoi. Et c'est ce que tu dis d'ailleurs, de se prendre en compte que ça devient un objet à nouveau qu'on peut ouvrir, et alors on le met en partage, et on le met en partage avec les premiers concernés, ceux qu'on trouve en chemin, qui sont des artistes, des amis, etc., et qui du coup vous fabriquez un collectif, et puis après ce collectif il va dans les ateliers de lecture, il va en résidence à Casma, il va. Et alors ça circule déjà, en fait. Et voilà.
Mais j'ai une question, des observations autour de ces questions de communauté, parce qu'elles m'importent beaucoup. Je pense qu'il y a un premier truc un peu à mettre en contraste, c'est communauté, identité, quoi. Il se trouve, par exemple, si on reprend, et à chaque fois ça se pose différemment. Je pense qu'avec les collectifs Huntington, ça ne se pose pas de la même manière, ça se pose circonstanciellement pour l'instant avec les Entendeurs de Bois, comment ça s'est posé avec ACT UP. Mm-hmm. Avec ACT UP, il y avait une grosse présence, communauté homosexuelle en termes de pratiques, de partages sexuels. À un moment donné, il y a eu une présidente hétéro qui s'est proclamée hétéro, femme, etc., à un moment donné, qui aujourd'hui est. Une figure malheureuse de la gauche française, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est là, Emmanuel Cos.
Emmanuel Cos.
Ouais. Bon, et avec les Entendeurs de Bois, ce que je trouve intéressant, et que je trouve aussi partiellement, partiellement autrement configuré chez vous, c'est que si, quand on est en place, il y a des psys qui viennent moi-même, je suis psy, j'y vais, tout ça, c'est que. Il y a une logique de désidentification première pour fonder quelque chose qui est de l'ordre des. Je ne sais pas si c'est une communauté, mais un processus, disons, moi j'aime bien l'appeler communisation, au sens, il y a de l'hétérogène, il n'y a pas de communisation, c'est une hétérogénéité qui se met en contraste et qui fait rencontre, et qui fait émerger quelque chose qui n'était pas attendu au début. Quoi. tu convoques la psychologie institutionnelle, mais c'est jamais débarrassé de la notion des psychoses. C'est, et ce qui est intéressant avec ces gens-là, c'est qu'ils ne vont pas faire un grand débat sur les fondements épistémologiques de la psychose, c'est ce qui passe à côté, ils s'en fichent, quoi. Il y a une logique de désidentification par des procédures très précises, c'est-à-dire, je prends trop de médocs, vous m'infligez, vous m'assignez à une place subjective ou une attente de ce que je dois être à certains endroits. À ces endroits-là, bon, bah, c'est un peu discutable. Parfois, j'ai besoin d'aller à l'hosto, mais la plupart du temps, c'est pas très joyeux. Bon, j'ai trouvé des petits sympas ou pas sympas. Et c'est pas la question après que les petits soient sympas ou pas sympas. C'est qu'il faut fabriquer autre chose
qui est à l'ordre d'une. Il faut savoir aussi de quoi on parle. Il faut fabriquer autre chose. Juste... Quand je vois coller en faisant de voix schizophrène, ça va pas.
Quand on n'avait pas la théorie de lecture, c'était la première chose qu'une psy avait dit.
C'est nosographiquement, classiquement.
Pourquoi?
Mais c'est parce que c'est, ou alors c'est la schizophrénie au sens américain, si tu veux. Tout ce qui est des ordres soi-disant pathologiques mentaux, c'est schizophrène.
Non, mais c'est
mais là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est profondément.
Parce que toi, tu penses que c'est pour dire que c'est une vraie
schizophrénie. Circuler en psychiatrie, il y a du diagnostic.
C'est en train de changer.
Je veux dire, on ne peut pas remettre en cause un diagnostic comme ça.
Évidemment. Mais évidemment, mais ça a changé parce que le rêve existe. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'eux disent qu'ils ont été diagnostiqués comme tels.
Oui, c'est ça.
Ils parlent de ça.
C'est le DSM, c'est le machin, c'est le.
Pas forcément. C'est des très bons en psychiatrie. Analystes de gauche qui leur ont dit vous êtes des schizophrènes.
Oui, bah, ils n'étaient pas les SM. Les analystes de gauche, justement, ils sont pas là où se trouvent les schizophrènes. Je veux dire, les schizophrènes, soit ils sont en train de travailler dans la rue, soit ils sont dans les institutions. Et ça fait 40 ans qu'ils
y sont. Ça, c'est une drôle d'assertion, ça. Parce que les gens qui sont à rêve, ils ont été passés par les institutions parfois pendant 15 ans, 20 ans.
Oui.
Ça ne faisait pas de doute qu'ils avaient les trois gros trucs nosographiques classiques, dissociation, production délirante, ou alors plutôt négativisme, enfin les trucs très classiques de tous les manuels de psychiatrie. J'étais parfaitement dans les clous. Et puis, bon, et quand je côtoie des personnes qui viennent là en disant ben, j'entends deux voix, c'est pas qu'elle a simplement. Il y a des gens qui disent j'entends deux voix et qui se disent, qui te disent ben, ça se passe fort, fort bien. Mm-hmm. Mais il y en a plein d'autres qui t'écrivent tout un tas de choses qui correspondent parfaitement à ce qu'on nous a appris, nous, psy, dans nos formations universitaires ou des séminaires, quelles que soient nos petites écoles, tout ça, à considérer comme de la psychose, oui.
Oui, la psychose.
La psychose. Ou les schizophrénies.
Non, la psychose et la schizophrénie.
Parce que tu as une théorie particulière de schizophrénie à laquelle tu tiens, mais...
C'est comme le mot confondre un collectif, communauté, etc. On brasse des trucs, je veux dire, qui ont quand même à la fois des définitions, après qu'on peut contester,
mais
il faut les
définir.
Et psychose et schizophrénie, c'est... Voilà, tu as des psychoses, tu as des schizophrénies, tu as des psychoses. De même que de parler de la médecine, la psychiatrie, la psychanalyse, moi, les prendre là, comme ça, ça me fait beaucoup, quoi. On est encore une fois en train de... Voilà, de faire des...
Mais après, il y a l'atelier de lecture, et ça, c'est de manière générale, hein, c'est pas du tout sur ce cas-là. C'est vrai qu'à la base, c'est aussi cet enjeu-là. Enfin, pas à la base, mais c'est aussi un des enjeux. C'est que là, par exemple, ce soir, on a une très belle conversation sur un engagement spécifique et tout. Et après, au fur et à mesure, c'est ce qui peut-être aussi fait le lien entre toutes les séances, c'est qu'une bonne série d'ateliers de lecture, c'est qu'en un an, on a une définition commune d'un mot qui ne veut pas dire que c'est celle exacte, mais c'est-à-dire qu'un groupe de personnes va savoir ce que ça veut dire un mot. Et par exemple, sur communauté, donc le premier atelier de lecture qui a été mené au labo, c'était sur commun, parce qu'on est très à la mode aussi. Donc on avait fait sur commun et communauté. Et je me rappelle, en fin d'année, ça n'a traité que de ça, en fait. C'est, à chaque fois, il y avait des allers-retours entre le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait bouger un groupe, machin, et puis sur la terminologie. Parce que c'est aussi... un terme, on ne peut pas l'investir si on n'a pas de discussion de fond aussi. Enfin, tu vois, qui nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer deux heures à chaque fois à se dire qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Mais c'est vrai que plus ça avance et plus il y a des mots qui reviennent. Mais donc là, juste pour vous dire sur communauté, parce que c'est pour vous livrer ce à quoi on en était arrivé, au bout d'un an, c'était de se dire que... Et ça, c'est très schéma. En tout cas, moi, ça m'avait vachement soulagée de me dire « Ah bon, bah, moi, dans ma tête, maintenant, quand on me dit communauté, moi, pour moi, ça veut dire ça. » C'était un groupe et collectif. On s'était dit, ce qui pourrait les définir, c'est que c'est des personnes qui, a priori, se connaissent. A priori, ont une reconnaissance, c'est-à-dire, même si tu ne connais pas très personnellement, c'est-à-dire que vous, dans les 17 de Dingyangon, vous connaissez, enfin, vous êtes un groupe de personnes qui avaient monté un collectif, et peut-être ça s'appelle collectif parce que tout à coup, vous l'avez nommé, vous n'êtes pas un groupe de 17 personnes dans la rue.
à boire un café, quoi. Du coup, ça, c'est comme ça qu'on pouvait passer du groupe et du collectif. Et communauté, sans que ce soit forcément lié à un groupe, à un nombre de gens, même si souvent les communautés sont plus grosses que des groupes et tout, c'était, et ça que je trouve ça très beau, et c'est pour ça qu'on s'était dit finalement communauté, il est très beaucoup il est beaucoup utilisé en ce moment, et effectivement de manière galvaudée, ou sinon on décide ensemble qu'en fait on met un nouveau sens, et ça c'est intéressant.
Sur lequel on se met d'accord, pour
sur lequel on se met d'accord. Mais c'était, la communauté c'est de faire des actions qui peuvent s'appeler rites, qui peuvent s'appeler de différentes manières, mais des gestes ou des actions communes à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Donc par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais partie de la communauté française parce que peut-être je ne travaillais pas le dimanche. Et ça, c'était un trait commun de toute une communauté de personnes. Et ça, c'est assez beau ce truc. Et donc finalement, il y a peut-être une communauté des Tintons parce que vous avez des actions communes sans connaître la personne. Voilà. Est-ce que c'est des actions volontaires? Est-ce que c'est des actions liées à la pathologie? Enfin voilà, c'était juste pour vous dire ça parce que comme on n'arrêtait pas de revenir sur communauté, on avait quand même pas mal travaillé dessus. Donc, voilà. Et en termes de terminologie, depuis le début, enfin moi j'ai pas assisté à tous les ateliers, mais c'est vrai qu'un des enjeux de cet atelier, donc c'est super aussi la carte et tout, enfin, en termes de concept et tout ça, et après il faut bien garder en tête qu'à chaque fois on va un peu buter, mais là je trouve qu'on a avancé sur la maladie par exemple, enfin sur le mot maladie même, qu'est-ce que ça recouvre, il y a la folie qui est revenue souvent et tout ça, et moi il y a ce terme là, et je voulais en parler, et du coup je saisis une sorte de transition comme ça, qui est usager. Et que je comprends pas très bien.
On n'est pas très.
Oui, mais en même temps, ça aussi.
C'est usagé comme patient.
On a tout à fait conscience que ça pose des problèmes. Ouais. En même temps, on n'a pas trouvé d'autres aussi. Ouais. Non, c'est juste parce que ça dépend. Quand nous, on l'utilise par rapport à justement pour faire contraste avec patient. C'est-à-dire qu'on n'est pas nous les soignants qui parlons de patient. Mmh. On parle de on n'a pas envie de dire malade parce que c'est sur les usages, c'est sur la culture des, c'est ce que la Steiner parle de la culture des usages, on sait plutôt cette acception là et c'est surtout parce qu'on n'en a pas d'autres, parce que malade ça voudrait rien dire, parce que comme disait Valérie, il y a un concernement qui fait que pour nous des très proches sont des usagers, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans cette histoire, usagers de cette chose là ça ne veut pas dire que ça, on les identifie qu'à ça.
Pour moi, usager, il y a vraiment une notion de usage d'un service.
De consommateur, oui, bien sûr. Mais c'est que ça fait partie du sens commun d'usager, usager d'un service de la fonction publique. C'était ça, d'ailleurs. Mais c'est la militance aussi qui a ramené ce mot-là, et notamment ACT UP, d'ailleurs.
Usage, il y a quand même une belle définition d'usage au départ. Et c'est avec ces définitions-là qu'on veut renouer, sauf qu'elle a été effectivement.
Mais quel est l'usage ? Et sauf qu'en même temps, c'est intéressant d'en faire usage de la médecine. Via le trajet de militants ACT UP, c'est on peuple aussi un petit peu de ça, et on voit bien que c'est une manière de placer sa force, à placer un peu le débat, en disant d'emblée, pas être juste soit des malades, soit des patients, etc., mais des gens qui peuvent circuler.
Selon les pratiques, quels usages ils font
dans les pratiques, etc.
C'est ceux qui vont produire leurs usages aussi, non ?
Et on en fait ça au bout d'un moment dans
un rapport. Comment j'entends dans nos usagers ? Parce qu'à l'inverse, moi quand je suis allée au Sénat là, début septembre, il y avait le collectif des 39 insurgés là, contre la nuit sécuritaire. Et eux, ils se battaient, enfin, je ne sais pas du tout, je ne les connais pas, c'est pas un modèle, mais ils avaient pour eux, par exemple, c'était très négatif, le terme usager, sans qu'ils en aient proposé d'autres. Mais c'était pour eux qu'il y avait...
Parce qu'ils étaient galvaudés par...
eux, ils l'entendaient comme quelque chose de très politique, c'est-à-dire que le champ politique, dans ses lois santé, a fait passer l'usager pour aussi... lui valoir moins de choses, enfin, justement cette
et en même temps
le passif, non, le rendre passif,
non, justement, mais tu vois, le rendre dans voilà, t'es usager d'un service, moi la qualité de mon service elle peut varier aussi
de l'offre et de la demande,
sauf que c'est pas, il y a aussi qu'il y a eu les lois de représentation des usagers et que c'est aussi un truc qui est les usagers de la santé eux-mêmes se disent usagers quand ils sont en train de travailler, avoir plus de représentativité, c'est super compliqué comme mot,
pas mal de mots, c'est normal.
C'est intéressant le mot usager par rapport à la maladie, parce que c'est bizarre de dire usager d'une maladie, mais quand même c'est intéressant par rapport à une idée d'usage comme celui développé par Agamben, où la question d'usage, c'est toujours d'une certaine manière entre utiliser et être utilisé par. Donc c'est une espèce de truc où on est d'une certaine manière désarmé par rapport à une question d'être l'usager dans le sens complètement actif ou complètement en contrôle de l'usage.
Absolument.
On est usé aussi, on est utilisé par quelque chose. Donc on est dans un processus où il y a une certaine zone d'indistinction entre le sujet et l'objet de cette relation. En fait, la relation, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Mm-hmm. Et je pense que la question de...
Est-ce qu'il y a une chose juste?
Entrer dans un rapport...
Mais parce qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des patients. Hein. On est, moi, je ne suis pas une patiente, là, quand je vous parle. Hein. Je ne suis patiente que quand je vais à ma consultation de je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas des patients, alors vous consultez, vous les mettez, tu vois.
Ouais.
Patient, c'est... Non, ça ne va pas. Patient, c'est quand uniquement...
Mais donc, pour moi, c'est pareil. Je ne vois pas la plus-value entre usager et patient. Je vois pourquoi patient, c'est nul. Enfin, tu vois, je vois...
Mais du coup, tu ne veux pas...
T'es pas tout le temps usager non plus.
Non. Bah, non,
mais on est usager.
Si, mais de différentes
d'autres choses.
Moi, je suis usagère de plein de choses. On est tous usagers de plein de choses.
Si tu me dis patient, c'est pour remplacer, c'est pour dire ce truc-là, c'est pas permanent. Pour moi, usager, c'est tout aussi permanent que patient.
C'est les usages différents.
Okay.
C'est l'usage à la maison, ça peut être.
Tu me dis que de toute façon, il y avait plein. C'est marrant parce qu'on enlève
le. Il y a la question du partage.
Les usages, on partage.
C'est que ça libère cet ancien mot, cet ancien mot du sens usage. Je trouve ça hyper beau. C'est aussi le rite. C'est aussi, tu vois, un usage.
C'est aussi que le mot, du coup, il est pluriel.
Oui, mais c'est horrible, par exemple, le mot en anglais customer. qui vient à un consommateur ou client ou quelque chose comme ça, mais ça vient, la racine étymologique, c'est custom. Mm. Et custom, c'était quelque chose comme un rite qui existait entre une communauté de gens qui n'étaient pas forcément liés à un rapport économique avec la chose. C'était le custom, c'était l'usage ou l'habit. L'habitude.
Ou même la négociation, parce que finalement le commerce, c'est quelque chose c'est beaucoup là-dessus, c'est un truc qui est très beau, qui n'est pas uniquement capitaliste, le fait de devoir justement être dans une alliance de négociation, et là c'est un joli usage de cette relation-là.
Et donc, il y a l'idée de soin, enfin, dans patient, après patient, il n'y a pas forcément... intrinsèquement l'idée de soin d'ailleurs, mais ça me faisait, là juste pour la petite anecdote, ça me fait marrer qu'on prenne usager, donc où il n'y a plus la notion vraiment de soin, mais plutôt d'un usage, d'une manière.
Encore une fois, le terme usager dans l'histoire de la santé a...
aussi, Et pareil, moi je sais pas si vous savez, mais il y a ce terme-là, curator, qui est beaucoup utilisé maintenant en français aussi. Et pour désigner les commissaires d'exposition, et ça vient du soin, par contre, ça veut dire soigner, curator, ça vient de curate, soigner.
Bien sûr.
Et je trouve ça marrant que de plein de champs qui ne sont pas liés normalement aux soins.
Commissaire, c'est la police.
On a plein.
C'est vous, c'est la police. On est
d'ailleurs
au médecin. Au médecin, quoi.
En deux, deux.
Et on a des rôles personnels. Et en fait, quand vous avez dû usager, il n'y a pas du tout que dans le champ de la médecine. Enfin, je pense qu'on a un problème de. Qui donne à qui, quoi. Enfin, on ne sait plus trop.
Mais c'est un déterminateur.
Enfin, c'est un problème.
Mais c'est ça que je disais.
Ça, c'est intéressant. Ça, on peut.
Parce que, par exemple, moi, on est très proche d'une professeure. Et vous remarquez, aujourd'hui, moi, ça fait plusieurs professeurs qui ne me disent plus mes élèves, mais mon public. J'ai toujours été hyper surprise depuis mon public. Voilà, comme si on était. Ah ouais, le public, mais au sens de usager public, je pense, encore une fois. Mais.
C'est
marrant.
Mais pour ramener ça justement sur le terrain, peut-être, alors que tout strictement même de l'échange et de l'échange économique, il y en a qui proposent de dire payer payant. Il y a ceux qui payent.
Celui qui paye et celui qui paye.
Qui sont payés, quoi.
Payer payant à la place
de patient médecin.
Ah oui, ouais, mais alors ça réduit quand même la relation à l'échange économique.
Bah oui, on est quand même pas souvent dans un rapport, il y a ceux qui payent et ceux qui payent.
Oui. Mais on décide de focaliser que là-dessus, c'est ce que je veux dire. Oui, il y a aussi d'autres rapports que...
Statutairement, c'est ce qui fait en tout cas le...
Oui, mais donc on...
Mais sur ce plan-là, c'était juste sur ce plan-là.
En même temps, ça met en rapport direct, ça montre directement le rapport de hiérarchie aussi.
Bien sûr.
Entre la personne qui attend le patient, les patients, ils attendent, puis la personne qui attend l'autre. Enfin, c'est juste... Il y a toujours des rapports de force, il y a toujours des rapports de hiérarchie, des rapports de l'argent entre
Mais le patient n'est pas forcément malade, c'est ça que moi j'aimais bien dans patient. C'est pas parce que t'es patient que t'es malade.
Ah oui, dans le sens adjectif du terme.
Mmh, t'as besoin d'être quand même. T'es un patient. Tu peux ne pas être en situation de.
Si, c'est très clairement. Si, très clairement, parce que d'ailleurs, quand moi, avant que je fasse le. Bah oui, mais non, t'es.
Mais donc, t'as besoin d'un médecin, t'as besoin d'une aide médicale.
Mais ça veut pas dire que.
Pour le médecin, c'est. Non, rapport avec le médecin, c'est qu'il y a un
par exemple, chez mon dermato. Je vais chez mon dermato, je suis sa patiente, mais je ne suis pas malade.
Oui, mais tu es donc patiente.
Je ne suis pas malade.
Mais tu as besoin d'être soignée parce que tu as un petit problème de peau.
Non, elle va regarder mes grains de beauté.
Oui, mais c'est de la médecine prédictive.
Le patient n'est pas forcément malade.
Non, mais je prends, du coup, quand on dit patient, c'est quand même malade, tu vois.
Parce que tu vas quand même pour vérifier.
Et puis encore une fois, Ben Tipton, on sent.
Et toi,
quand on parle de. Oui, mais là, quand on dit usager, c'est Valérie est une usagère. Parce qu'elle est dans ma vie,
mais
qu'elle
continue
dans
la sienne. C'est ça que je comprends.
Mais
pas
parce que dans notre cas, elle est ma proche. Donc
mais en fait, je comprends. En fait, c'est l'usager. Bon, mais c'est. En fait, je pose des questions parce que ça m'intéresse. Je comprends bien ce que vous dites. Mais pour moi, l'usager, c'est usager de quelque chose. Pour
enfin, parce que. Ben moi, je me sens usagère de Huntington.
D'accord. Ok.
Ah bah oui, c'est ok. Bah oui, parce que moi, Huntington est dans ma
donc
vie.
Tu traverses Huntington.
Et je fabrique avec Huntington. Okay.
Là. Pour Huntington, moi, c'est usager de l'hôpital.
Que être est dans ma vie et je fabrique avec. On fabrique avec.
Mais nous, on disait, parce qu'on ne dit pas, je ne sais pas, usager c'est de usage Huntington, mais on dit usager.
Ça,
mais c'est
usager.
On parle que d'usager de Huntington
depuis le début.
Oui. Non, on parle que de Huntington. Hein.
Non, mais je suis usager. Oui, ça peut être usager de l'hôpital, usager de.
Non, mais c'est usager de Huntington.
En tant que concerné, quoi.
De Huntington, en tant qu'être, objet, peu importe.
Les Anglais disent impacté. Mais on n'aime pas. Les Anglais, maths et tout ça, ils disent impacté. Impacté.
On aime bien dire toucher aussi.
Mais c'est juste en même temps, mais c'est pas très beau.
On dit aussi toucher, mais oui, c'est vrai toucher. Qu'encore une fois, dans l'usage, moi j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a cette indétermination de qui fait l'usage de quoi et de qui et comment.
On peut faire
et ça laisse complètement ouvert à cette Huntington qui peut être, selon les moments aussi, ou selon les situations, un être, une définition, enfin je sais pas,
qui ont des choses, qui ont des choses.
C'est aussi la question de la pensée ou d'être dément, c'est du binarisme, parce que. D'un moment dans cet rapport d'indétermination, c'est-à-dire qu'il y a de la pensée, mais il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui pense, ou dans le sens classique du sujet qui pense, moi, je pense, mais il y a quelque chose qui sera de la pensée, mais c'est une autre forme de pensée de cet rapport classique de moi que je pense.
Mais même, et aussi, je vois très bien, tu as tout à fait raison, mais il y a aussi du moi-je en plus, sauf qu'il met des plombes à se dire. Et donc, pendant le soignant est déjà parti. À ce moment-là, ils n'ont plus les mains. Ok, alors après le deuxième. Ouais. Parce qu'il faut, il faut tripler le temps de consultation. Ça, c'est un vrai problème, parce que dans les hôpitaux français, c'est un quart d'heure la consultation de neurologie. Pouvoir faire un entretien avec quelqu'un, on en a fait beaucoup avec des malades, c'est une heure et demie. Donc d'emblée, donc du coup, si tu mets un quart d'heure, de toute façon, tu ne vois. Enfin, qu'est-ce que tu vois à part.
Et nous aussi, c'est pour ça qu'on fait plusieurs entretiens, parce que non seulement déjà le temps d'entretien, mais le temps après de la mise en mouvement qu'un entretien produit. Quelqu'un qui se dit, bon, on peut pas tout penser sur le moment, donc parfois ça vient.
Le temps de la rencontre.
Et c'est vrai qu'en plus, Huntington est particulier pour ça, puisque justement, il y a des gens. Ou d'un moment dans la maladie, il y a un effet, une altération qui fait qu'ils mettent plus de temps. Parfois, ils vont mettre 5 minutes à dire bonjour. Si on attend, évidemment, qu'on personne dise bonjour. Hein. Et parfois même, ça prend 2 jours.
Parfois, ils répondent à une question qu'on leur a posée quelques
jours après.
Mais ils répondent, mais pile poil, par contre.
Ouais.
Donc, c'est ça.
Moi, je l'ai trouvé en général.
Mais ça, c'est une question aussi de rythme, en fait. En fait, on fait une espèce de nouveau, on retourne à la question de la normalisation parce que effectivement, ce type d'expérience introduit de nouvelles expériences pour la personne d'un rythme différent, d'une temporalité différente. Et la question, c'est comment dans une communauté, soi-disant, et même dans le sens plus large de la société, qu'on peut vraiment, une communauté qui est digne d'être appelé comme ça, doit être capable d'agencer avec ses rythmes et aussi d'apprendre d'autres rythmes. C'est pas ça. Simplement de dire qu'est-ce que c'est, moi j'ai une réunion. C'est comme il faut aussi apprendre des expériences de temps différent. Et
Absolument, c'est tout le problème. C'est, moi, je crois que c'est vraiment ça.
Et c'est ce qui fait aussi l'endroit de Huntington particulier. Enfin, c'est pour revenir aussi sur cette question du savoir situé. C'est que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer, qu'il ne faut pas qu'il soit partageable, mais il y a quand même un endroit où Huntington, en tant que... c'est une situation bien qui n'est qu'à elle, qui produit des choses qui sont spécifiques aussi à Huntington.